Il y a ceux qui se lèvent de mauvaise humeur, contrariés, renfrognés, froissés, les yeux en dedans, le cœur cadenassé, l'envie de pas y aller. Et puis, il y a ceux qui se réveillent comme des soleils, prêts à rayonner, prêts à rencontrer, prêts à aimer, à être aimé, prêts à danser, à chanter, à enchanter. Et puis il y a ceux qui ne se réveillent pas, qui retournent dans leurs draps, dans leurs rêves, dans leurs plumes, en apesanteur, dans leur sommeil, dans leurs rêves. Quand les rêves sont plus réels que la vie, quand les rêves prolongent les espérances, et puis un jour, il va falloir quand même y aller. Il va falloir le prendre, ce truc qui fait teuf-teuf, qui gronde, ce métro, ce train, ce bus, ce dos d'un copain. Partir, partir, sur le dos d'un ami, comme un cheval de trait. Viens mon pote, donne-moi ton dos, on sera deux, il fera plus chaud.
Voilà, c'est une petite improvisation. Oh, y a, c'est pas non plus, c'est pas... Après, il y a mieux, mais c'est plus cher.
Radio Nova.
Ah, voilà. Ça, quand c'est Thierry Paret, là, tout le monde est aux ordres. Oui. Peut-être dites-lui bonjour, parce qu'il y a beaucoup de monde en studio ce matin.
Bonjour.
Alors, qui est en studio ce matin, peut-être déjà? Il y a Eugénie Poumaillou qui organise toute l'émission et d'autres émissions pour d'autres radios. Je sais qu'elle cachetonne à Europe 1, oui. France Inter, Radio Classique, Courtoisie.
Poumaillou est partout.
Poumaillou est partout. Nous avons Armel M.
Je suis ici seulement.
Ici seulement, avec 15 métiers différents. Il y a les boutiques Armel M, un chocolat blouson. L'après-midi, on est filmé par Nicolas Lartigue du Parti communiste français. Nous avons aussi Tito qui est notre correspondant à Bordeaux, qui est beaucoup à Paris quand même.
Oui, hein. Pour un bordelais,
le côté régional.
Très hein. Parisien.
Quoi ? Bordeaux se trouve à Paris aujourd'hui, vous et le savez.
Il continue à parler en dehors du micro, ce qui montre une très belle timidité de sa part. C'est ces fameux, oui, c'est parce que Paris, c'est une ville de provinciaux qui
tout
sont
fait,
venus
tout
travailler.
Tout à fait, c'est pour ça que Paris aujourd'hui rejoint Bordeaux.
Je n'ai pas bien compris. Notre rédacteur en chef, Thomas Baumgartner, une sommité dans le monde de la culture. Oh. Thomas, vous avez France Culture, vous avez un cursus.
Jadis.
Qui nous honore et qui nous force à faire attention quand on ouvre la bouche.
Je vous remercie.
Marie Misset s'est mise en retrait, elle prépare sa revue de presse qui est toujours un moment très attendu d'intelligence et de sagacité. Marie, ça va être bien ou pas ?
J'aime bien. Je ne sais pas encore. Alors, on en est au tout début, je ne peux pas vous promettre.
Faites votre petite bande-annonce, faites-nous rêver.
Alors si, j'ai décidé, comme on en a parlé ce matin avant l'émission, de parler des gens qui votent contre eux.
Ah oui, il y a beaucoup de gens qui votent contre eux.
Qui prennent des décisions contre eux-mêmes. Comme ça nous arrive souvent. Enfin,
oui, mais...
ça nous arrive à tous de prendre des décisions qui ne nous font pas du bien au final. Bah, y a des gens qui votent comme ça aussi.
Il y a beaucoup de gens qui ont voté Trump en disant « Il y en a marre de ce truc de la sécurité sociale. De quoi vous vivez ?» Bah, de la sécurité sociale, mais ça n'a rien à voir. Voilà, écoutez,
J'ai oublié Atmen. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez ?
Bah, parce que vous m'avez vu hier soir, c'est peut-être pour ça, je suis trop dans votre vie.
On a bu un coup, on peut dire. C'était l'anniversaire de Léa Drucker, c'est John Comey. Bon, écoutez, ça nous...
On s'en fout.
Excusez-nous.
On m'appelle tonton gingembre maintenant.
Oui, vous avez bu des boissons africaines au gingembre. Je vous souhaite un très bon réveil et je vous souhaite Thierry Paret à tous.
Le constat.
Alors remettez le petit truc qui montre que ça commence l'info.
Alors il faut parler deux minutes.
Parce qu'il faut remettre pour crédibiliser le journal de 7h.
Alors attendez, parce que ça demande une petite manip.
Oui, mais c'est important aussi. Je crois qu'il faut respecter le temps de la technique.
Alors est-ce qu'on y va ?
Oui. Le journal de Thierry Paret, 7h04.
Le constat est dur, un taux d'activité faible, un surchômage persistant, une proportion élevée de décrocheurs. La situation des jeunes sur le marché du travail s'est globalement dégradée et leur insertion professionnelle est plus compliquée en France qu'ailleurs en Europe. C'est ce que révèle un rapport qui va être remis tout à l'heure à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. C'est dans ce contexte que le gouvernement va dévoiler aujourd'hui le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi à la fin 2016. EDF et l'État auraient trouvé un compromis sur le dossier de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, promise à la fermeture par François Hollande. Le conseil d'administration de l'électricien public doit étudier ce matin la convention négociée avec l'État pour indemniser EDF à hauteur de environ 450 millions d'euros d'ici 2021 pour la fermeture donc des deux réacteurs nucléaires l'an prochain. 400 personnes ont défilé hier dans les rues de Fessenheim contre la fermeture du site. Troisième ronde judiciaire aujourd'hui dans l'affaire AZF, autrement dit la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945, survenue à Toulouse en septembre 2001. Relaxé classés en première instance. Le directeur de l'usine et la société Grande Paroisse, filiale de Total, avaient été condamnés en appel pour homicide involontaire. Un jugement annulé par la Cour de cassation. Troisième procès donc à Paris et non à Toulouse où les deux procès précédents avaient eu lieu. Il va y avoir une manifestation tout à l'heure des familles de victimes à Paris. Elles protestent évidemment, elles auraient préféré que ce procès se tienne à Toulouse. Petit bug du site, cafouillage dans la remontée des résultats, flagrant délit d'exagération. Bref, chacun y est allé de son explication hier autour du chiffre incertain de la participation de la primaire de la gauche et du nombre de bureaux de vote également. Il a été bien difficile, c'est vrai, d'obtenir un chiffre fiable à ce propos. Le compteur du nombre de votants a même disparu plusieurs heures après, bien après la fin du vote. La participation finalement se serait établie à 1,6 million contre 2,6 millions en 2011. Quoi qu'il en soit, les deux qualifiés pour le second tour, Benoît Hamon et Manuel Valls, sont repartis en campagne après avoir reçu le soutien d'Arnaud Montebourg. Benoît Hamon a reçu celui précieux de Martine Aubry et de ses alliés. Les deux candidats vont débattre demain soir à la télévision. Des incendies ravagent le Chili en ce moment. Plus de 129 000 hectares de forêts et de cultures au centre et au sud du pays sont partis en fumée en quelques jours. Selon Michel Bachelet, il s'agit du pire désastre forestier de l'histoire du pays. La présidente du Chili a décrété l'état de catastrophe naturelle dans les régions concernées. Grâce à une pièce en sucre très rock avec un guitariste cheveux au vent, la France a remporté hier la Coupe du monde de pâtisserie, l'un des plus prestigieux concours internationaux de gastronomie.
Que nous disiez-vous en ouverture du
ça,
journal.
Ça, c'est l'info. Ouais.
Voilà, devant le Japon et devant la Suisse. Et puis la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, la CAN et le handball aussi. D'abord, la CAN, l'Algérie est éliminée. La Tunisie est qualifiée pour les quarts de finale aux côtés du Sénégal. La Tunisie sera opposée au Burkina Faso et le Cameroun sera opposé, lui, au Sénégal. Un mot de handball pour vous dire que la France a rendez-vous contre la Suède en quart de finale aujourd'hui. Les autres quarts, c'est aussi aujourd'hui. Espagne, Croatie, Hongrie, Norvège et puis Slovénie, Qatar. Et puis le Vendée Globe. Ah, parce qu'on n'en a plus rien à faire une fois que
non,
le troisième
est arrivé. Le troisième est arrivé.
C'est pas vrai.
Le troisième est arrivé hier soir. C'est Jérémy Bayou. Voilà.
Oui, il est arrivé très tard, non?
Très tard. Oui, bah, c'est très tard pour toi, 19h40.
Essaye d'y aller. Toi.
Il est arrivé par la mer.
Non, mais faites pas le mec qui est là depuis longtemps. Qu'est-ce que François, il est 7h06. Votre contrat que j'ai devant moi.
Ouais.
François Rollin, arrivé 6h45. Prise de café 6h50. Présentation de ses billets d'humeur.
On n'a pas les mêmes documents, manifestement, parce que moi, j'ai enquête dans le quartier entre 7h et 7h04. Ce que j'ai fait, je suis arrivé à l'issue de l'enquête et mon enquête est prête à passer à l'antenne.
J'ai à la disposition de la production dès 6h15.
Posez-moi des questions sur le quartier. Vous allez voir la connaissance que j'en ai dès maintenant.
Il y a une présentation de l'équipe qui a été très appréciée à 7h02 et vous n'y étiez pas.
Parce que vous ne m'avez pas mentionné, vous avez eu le culot de ne pas mentionner que j'étais en mission, en enquête dans le quartier.
Non, ça ne s'appelle pas une mission dans le quartier, ça s'appelle aller au bistrot boire un coup avec des cons.
Oui, évidemment qu'il y a de ça.
Il y a un petit peu de ça.
Bon,
on a envie de voir un petit peu, est-ce qu'il y a des voix plus... Qu'est-ce que... parler un petit peu, aérez-nous la tête par votre voix.
On va peut-être mettre un peu de pub, non?
C'est très très joli. Attends, continuez, ça me détend, je trouve que c'est plus agréable. Parce que Rollin, vous avez la voix rocailleuse ce matin.
Ah, comme qui dirait une voix de Rogom. Ouais.
Ah, je ne connaissais pas. Ça,
ben oui, c'est la voix de celui qui a trop bu, trop fumé, la voix de Rogom.
C'est beau en même temps.
Voilà, et alors... on peut le pousser assez loin si on s'appelle, comment il s'appelle notre ami, bien sûr.
Brasseur.
Est-ce que vous pensez que la vie c'est salissant, François Rollin?
Oui, j'en suis certain même.
Ouais.
J'en suis certain et aucun d'entre nous ne peut se prévaloir d'être plus propre aujourd'hui qu'il ne l'était lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Non, aucun. Ah non.
Et moralement, vous êtes propre, François, ce matin ou pas?
Pas tellement plus qu'hier, et en tout cas même, je dirais, plutôt un petit peu moins qu'hier. Ce qui fait qu'au bout du compte, j'ai quand même accumulé pas mal de saloperies dans ma chienne de vie, donc...
J'ai envie que tu passes aux aveux, Rollin, ce matin. J'ai envie d'avoir le vrai... Fini les pouettes.
C'est garde à vue, là, les deux.
Tiens, Atmen Guimarchand, allez nous chercher des sandwichs de jambon beurre et des bières.
J'y vais, pas trop.
On va y passer la nuit. Alors, Martino.
Martino.
Maître Martino, il n'y a plus personne ce matin, maître Rollin. C'est fini le notable, là.
Oui, je me suis prêt à tout déballer. De toute façon, je n'ai honte que d'une toute petite partie, et c'est celle que je vous délivrerai en premier.
Très bien, bah pendant la pub.
Voilà.
7h, 9h, plus près de toi.
Ça vous fait quel âge, Anthony Sonigo, maintenant?
24.
24 ans, Anthony Sonigo, on l'a connu adolescent dans Les Beaux Gosses, hein, de Riyad Satou. Vous aviez quel âge?
J'avais 15 ans.
Et vous étiez comédien ou on est venu vous chercher dans la rue? Vous étiez là, vous faisiez un autre métier, vous étiez animal, qu'est-ce que vous...
Bah, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'avais fait des choses avant Les Beaux Gosses, à la télé, des pubs et un téléfilm. Ah. Et en fait, pour Les Beaux Gosses, ils cherchaient beaucoup de gens. Ils avaient gardé mes coordonnées.
Vous étiez un enfant acteur?
Oui. Enfin, non, enfin j'étais un enfant qui...
Sur
qui
les routes,
fait
avec, qui jonglait, une famille de dresseurs d'ours qui sillonnait la France. J'essaie de rendre le truc plus...
Non, ma mère, en fait, me battait pour aller en casting.
Très bien, ça c'est bien, ça plaît beaucoup.
En fait, parce que comme j'étais très, très hyperactif, il y en a qui font des activités extrascolaires, c'est ça.
Oui.
Il y a des mots que j'arrive pas à dire, et en fait, il y en a qui font du foot, du judo, du basket, et moi, ma mère, elle m'a emmené faire des castings.
Alors, un bon comédien, c'est souvent une psychanalyse non résolue, hein, on le voit dans votre cas. Anthony Sonigo, vous jouez, alors on commence à parler pas mal de ce one-man show, on peut appeler ça comme ça.
Oui, c'est plus un seul en scène.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
c'est
je préfère le traduire en français, parce que comme on est en France et que...
Oui, mais c'est décevant. Vous voyez, moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Pour moi, mais parce one-man show, je voyais un truc avec des claquettes. Et tout à coup, vous me dites seul en scène. Là, je vois de la misère, je vois une vieille ampoule, je vois trois planches. Je vois un mec qui dit, je ne peux pas te payer parce que j'ai des frais, j'ai deux paquets sans cuisine qui ne sont pas déclarés. Comment veux-tu que je fasse depuis qu'elle est sociale au pouvoir? Vous voyez, je vois cette ambiance un peu... De...
Oui, mais il y a un peu cette ambiance mélangée au one-man show. Et un peu au stand-up, mais c'est plus un spectacle, c'est un moment de vie, c'est un moment à partager, voilà.
Alors, c'est un endroit qui s'appelle le Théâtre Populaire du Renitas dans le 20e, c'est déjà tout un monde, ce Théâtre Populaire du Renitas, qu'est-ce que c'est?
Bah, en fait, c'est un théâtre qui accueille des spectacles comme ça, dans une ambiance assez chaleureuse. À côté, il y a un petit bar pour boire un verre, il y a beaucoup de gens qui boivent des verres et il y en a un peu qui viennent voir les spectacles. Et donc je salue José qui est le pilier de bar de là-bas. Il faut saluer José.
Il faut le faire. Il faut le faire.
Tous les jours à 17h, il est là-bas.
Dites-moi, ça parle de quoi?
Alors on y vient. Je sais pas parce que je suis un mauvais interview.
Oui, parce que là.
Non, mais alors est-ce que vous pensez que c'est agréable quand on est comédien d'avoir un public bourré? Est-ce que ça vous aide à jouer?
Mais oui, vraiment. Alors sans mentir, il y a deux semaines.
Oui.
Je jouais devant des mecs bourrés.
Mais
et
oui.
C'était très drôle. Ça veut dire que moi, à un moment, je leur ai demandé de monter sur scène et moi, j'ai rigolé.
Mais vous avez... Alors là, bon, le type avec les huissiers, là, c'est votre metteur en scène, Cyril Cohen, qui est là.
Alors Cyril Cohen, qui est un gars extraordinaire.
Oui, mais alors on ne le voit pas sur scène.
On ne le voit pas sur scène, voilà.
Qu'est-ce qu'on y voit dans Anthony Sonigo s'envole? Le spectacle qui raconte, je crois, un petit peu votre vie. J'apprends que vous avez été déguisé en Spider-Man à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie que vous aviez besoin de raconter, Anthony?
Bah en fait c'est très très court, très ça parle de ma vie, mais en fait ce que ça parle en vrai c'est du parcours d'un enfant qui grandit, et c'est ça le fond du spectacle. C'est pour ça que je dis que c'est plus un seul en scène que un spectacle où on va entendre toutes les deux secondes des blagues. Il y en a,
c'est un récit,
voilà,
c'est un récit.
Mais moi je pense que la meilleure chose, et moi ça me ferait énormément plaisir, c'est que vous lisiez
peut-être François Rollin, vous êtes
la gentillesse
de lire le cadre.
Ça sera un honneur. Oui.
Mais je voulais dire, de toute façon, c'est réjouissant d'avoir enfin un spectacle sur un enfant qui grandit après tous les spectacles qu'on a eu sur un enfant qui rapetisse.
C'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire?
Vous parlez de quel spectacle là?
Du retour en adolescence de certains.
Non, allez, ne rentrons pas dans la polémique. Je crois que ça n'est pas rendre service à Anthony. Alors que si je vous lis ce qu'il y a sur le petit flyer, vous êtes convaincu et vous êtes au théâtre Renitas dans 20 minutes, alors que c'est même pas ouvert.
Mettez-y tout votre talent de battleur.
Aussi loin qu'ils s'en souviennent, l'unique ambition d'Anthony Sonigo a toujours été de monter sur scène. Que ce soit en famille, dans la trop grande veste de son grand-père, à l'école, déguisé en Spider-Man, ou sur les plateaux de cinéma, il n'a jamais manqué l'occasion de se donner en spectacle. Révélé par le film culte « Les beaux gosses » de Riyad Sattouf, que Edouard a cité tout à l'heure.
Bonsoir.
Ça n'est pas écrit sur le flyer.
Bonjour à tous.
Anthony Sonigo raconte son étonnant parcours avec une énergie débordante dans un premier spectacle drôle et touchant, rythmé par les personnages qui ont marqué sa vie.
Merci François Rollin.
Qu'est-ce que c'est bien. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'on entend dans le spectacle? Atmen, vous avez aimé le spectacle?
Oui, j'ai adoré le spectacle et je voudrais que tu fasses le sketch du professeur de français, tu sais, que tu avais.
Oui, le professeur.
Pas la radio, mais, ça donne mais quelque
si,
chose.
Si, un petit quelque chose pour voir. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose pour nous?
Moi, je veux bien te faire, peut-être pas le prof de français, mais j'ai bien envie de te faire la première fois quand je suis arrivé dans un cours de théâtre. Tu te rappelles de ce moment?
Oui, complètement.
Parce que Edouard, voilà, il faut dire aux spectateurs, voilà, que pour faire ce métier, il faut faire un peu cours de théâtre pour avoir un peu de culture générale. Voilà, moi, je suis pas un gros théâtreux, mais je sais bien que c'est Shakespeare qui écrit Molière. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Moi, en fait, je devais prendre des cours de théâtre, mais pour autre chose. Bonjour, je m'appelle Anthony Sonigo. J'ai 15 ans. Je suis trop content d'être ici. C'est mon premier cours de théâtre. Alors en ce moment, je sais très bien faire Patrick Bruel. Bonjour, c'est Patrick, champion du monde de poker. J'adore Barbara. Donc, quel rôle j'aimerais faire plus tard? Spider-Man, direct. On va plutôt commencer par le misanthrope. Connais pas. Qui c'est celui-là? Ok, bon d'accord, on y va. C'est un livre? Ok. Madame, vous voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble. Et je sens qu'il faudrait que nous rompions ensemble. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre clit tendre à l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-en vous l'honneur de votre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il sait à qui chez vous l'estime où l'on le voit? Êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite que la doit de sa perruque blonde sur ces canons qui vous le font t'aimer? Voilà du Molière sur Nova pour vous.
Merci. Magnifique. Anthony Sonigo, c'est assez compliqué effectivement à la radio. Les changements
oui,
physiques.
Vous avez de Bruel à Molière,
il faut qu'on voit
bien,
parce que j'ai vu Patrick Bruel, j'ai vu Molière, j'ai vu cette professeure en quelques instants. Vous vouliez vraiment être Spider-Man, c'était votre acteur.
Mais moi j'arrivais en cours en Spider-Man en fait.
Et
mais là je peux pas le faire ici parce que
votre rêve ça serait quoi Anthony?
C'est d'être Anthony Sonigo.
Être le meilleur Anthony Sonigo possible, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est tous les jeudis à 21h30 au Théâtre Populaire, Anthony Sonigo.
Et les réservations
s'envole. Les réservations
sont
au 01 46 36 74 15. Mais je ne crois pas que les gens notent à cette heure.
Non, attendez, notez. On sait qu'il y a José qui nous attend.
Ils sont déjà en train de touiller leur café avec la brosse à dents. Il y a un embrouillé à midi ce matin.
Non, mais surtout, il faut dire que l'accès est libre au spectacle. On rentre
en
très
définitive.
Voilà, mais on sort en pays.
Merci, cher Anthony Sonigos. Nous vous aimons.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
On fait notre possible. On part dans la rue, à Paris, ensuite à Marseille.
Oui, on est... Bonjour.
Bonjour, Jack. Ouais.
Je suis descendu par hasard.
Vous remonterez.
Toujours. Oui, je suis remonté aussi plusieurs fois. Et j'ai vu de la lumière à travers une grande baie vitrée et je me suis approché. C'était indiqué Lilo sur le bâtiment. Et puis je suis avec deux personnes. On fume des clopes dehors. Et puis c'était un centre de réhabilitation pour prisonniers, c'est ça?
Oui. Nous sommes à Paris Lilo. C'est un centre d'accueil pour personnes qui sortent de prison ou qui sont en contrôle judiciaire.
Bonjour monsieur.
Bonjour à tout le monde.
Alors vous allez dans ce centre, ils vous aident à retrouver du boulot, ils vous aident à retrouver un logement, qu'est-ce qu'ils font pour vous?
Voilà, ils essayent de nous réinsérer.
C'est quoi le plus dur quand on sort de prison?
Le plus dur quand on sort de prison, c'est pas la première semaine, c'est la deuxième semaine, parce que la première semaine vous êtes dehors, tout est bien, tout est beau. Après, c'est la réalité de la vie, en fait.
Il vous donne un peu de pognon quand vous sortez de prison? On a un peu d'argent ou pas?
Bah, par contre, quand vous êtes en prison, vous les mandats, puis vous pouvez travailler. Donc, actuellement, ceux qui ont travaillé ont un petit peu d'argent. Sinon, il y a des gens qui sortent complètement sans un sou.
Et alors, donc là, on va à Lilo. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement?
Ici, on est accueillis. On commence une nouvelle vie. Réinsertion, travail.
Et alors, vous payez un loyer, vous disiez?
Ouais. Oui, on paye un loyer de 20%. Il y en a qui payent 25% de leur revenu. Voilà. Bonjour, hein, en fait.
Bonjour. Ah oui, parce que c'est la deuxième personne, monsieur.
C'est Laurent, là. C'est Laurent qui parle.
Laurent, alors vous êtes sorti il n'y a pas longtemps, Laurent, ou vous travaillez à Lilo?
Moi, ça fait 18 mois. Non, je travaille au travail. Je suis un résident.
Donc, ce sont des logements, des studios où on
peut... Non, c'est des chambres, ce sont des chambres.
Et c'est comment l'ambiance? Alors, ce sont des chambres individuelles, des chambres collectives?
Individuelles, ouais.
Donc là, vous êtes logé...
C'est une population quand même à risque, hein. C'est tous des sortants de prison, alors voilà. On n'est que des sortants de prison, on est une quarantaine, une cinquantaine, alors voilà, ça fait du bruit, quoi.
Vous n'étiez pas en prison pour les mêmes raisons, tous?
Pas tous pour les mêmes raisons, mais globalement, si.
C'est quel genre
de prison? Tous.
Quel genre
de prison?
C'est quel genre de...
Vol, deal. Il y en a qui sont là pour d'accord. meurtre, il y en a deux ou trois anciens là,
ouais.
18 ans de prison. Ouais. Alors ça, ça se passe bien, la cohabitation, c'est tranquille.
Mais ouais, on est bien en cohabitation.
Mais Laurent, vous disiez non que c'était à risque quand même, c'est un peu chaud quoi, vous dire, vous n'êtes pas en confiance totale
Si, mais bon, bah, c'est, comme c'est la même population, voilà, les sortants de prison, c'est l'ambiance qui se passe. C'est, on est sortants de prison, on ne va pas te raconter ce qu'on a fait en prison, on ne se raconte jamais. Voilà, on est tous sortants de prison, maintenant c'est de progresser dans la société, à savoir trouver un logement, ils sont censés trouver un logement, mais... Au bout de, je ne sais pas combien de temps, minimum 2 ans, on va retrouver, je connais une personne là qui l'a eu au bout de 3 ans, il est resté 3 ans ici. Donc moi, pour moi, c'est une perte de temps de rester 2 ans ou 3 ans ici, c'est une grosse perte de temps.
Mais là ils vous aident aujourd'hui, par exemple, vous avez des rendez-vous pour essayer de trouver du boulot, comment ça se passe?
Ah mais on le fait par nous-mêmes, on est débrouillards nous, on le fait par nous-mêmes.
Et aujourd'hui, là, vous avez la pêche, là vous avez,
ouais, on a la pêche, on est bien, là, un petit déjeuner vite fait le matin, et puis après ça va tout seul, ça roule tout seul, il y en a qui bossent, hein, le collègue là qui vous a parlé, il bosse. Hein.
Laurent?
Ouais.
Et vous...
Non, moi je ne bosse pas, moi.
D'accord.
Et mon pote, il bosse, qui vous a parlé en premier.
Et là, vous allez faire quoi aujourd'hui?
Moi, je fais beaucoup de démarches en ce moment. Je suis sur ma carte d'identité, là. Je l'ai déposée. J'attends qu'on me fasse signe quand je l'aurai. Sinon, la CPAM, des trucs comme ça. Il faut aller aussi à la mairie pour une demande de logement. Là, il faut que je la renouvelle. C'est la deuxième année, il faut que je la renouvelle. Voilà, des trucs comme ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous donne la pêche aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui vous fait chaud?
Nous-mêmes. C'est nous, hein, on est motivés. Hein. On veut s'en sortir, quoi.
Eh bien, on vous le souhaite, Laurent.
Ouais, je vous remercie énormément.
Et puis, et puis là, il y a Jack Souvent.
Ouais.
Le mec avec le micro. N'hésitez pas, ouais. Si vous êtes un peu... Si vous avez de la colère, à la passer sur lui.
Non, ça va, on n'a pas trop de colère, ça va. On la garde en nous.
Bon.
merci, c'est sympa, les gars.
Bon, merci les mecs, bonne clope à 3.
Ok, merci, hein, c'est cool.
Et
juste
puis...
un dernier petit mot,
ouais.
Pour tous ceux qui nous écoutent. Je souhaite que ce qui serait bien pour le bien de toute la France, c'est de mettre les hommes politiques au SMIC pour qu'ils sachent vraiment le prix réel d'un pain au chocolat.
D'accord, on va les faire parvenir par Ahmed Kelly qui est proche des politiques.
Okay. À tout à l'heure.
Salut les gars, merci, merci, bonne journée.
Radio Nova.
Très touchant, non?
Oui, Thierry Paret. Oui. Avec vos amis, les politiques, là.
Oui. Une nouvelle épidémie de rougeole est peut-être en train de se propager dans l'agglomération de Los Angeles. 18 cas de cette maladie infectieuse et très contagieuse ont été recensés ces dernières semaines. Ce nouveau foyer infectieux intervient alors qu'une loi en Californie rend obligatoire depuis 6 mois la vaccination des enfants scolarisés, mais beaucoup de parents sont
sceptiques. Qu'est-ce que c'est que cette ouverture de journal?
Cette vaccination.
Je vais demander. Attendez, bougez pas une seconde. Hein, c'est vraiment si important, bougez pas, Thierry. Dis-moi, Thomas.
Je continue en attendant.
En aucun cas. Dis donc, tu vas prendre, pareil. T'as ouvert avec de la rougeole à Los Angeles.
Ouais, mais parce qu'il y a eu une épidémie il y a quelque temps qui avait été assez importante en fait. Ouais.
D'accord.
Plusieurs centaines de personnes.
J'écrirai des lettres d'excuses.
Non, c'était drôle, c'est drôle. Le constat est dur, un taux d'activité faible, un surchômage persistant, une proportion élevée de décrocheurs. La situation des jeunes sur le marché du travail s'est globalement dégradée. Leur insertion professionnelle est plus compliquée en France qu'ailleurs dans toute l'Europe. C'est ce que révèle un rapport remis aujourd'hui à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va dévoiler tout à l'heure le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi fin 2016. EDF et l'État auraient trouvé un compromis sur le dossier de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, promise à la fermeture par François Hollande. Le conseil d'administration de l'électricien public doit étudier ce matin la convention négociée avec l'État pour indemniser EDF à hauteur d'environ 450 millions d'euros d'ici 2021 pour la fermeture donc des deux réacteurs nucléaires qui doit avoir lieu normalement l'an prochain. 400 personnes ont défilé hier dans les rues de Fessenheim contre la fermeture du site. Troisième ronde judiciaire aujourd'hui dans l'affaire AZF, autrement dit la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945, survenue à Toulouse en septembre 2001. Relaxé en première instance, le directeur de l'usine et la société Grande Paroisse, filiale de Total, avaient été condamnés en appel pour homicide involontaire. Un jugement annulé par la Cour de cassation. Troisième procès donc à Paris et non à Toulouse, où les deux procès précédents avaient eu lieu. Petit bug du site, cafouillage dans la remontée des résultats, flagrant délit d'exagération. Chacun y est allé de son explication hier autour du chiffre incertain de la participation de la primaire à gauche. Il a été, c'est vrai, bien difficile d'obtenir un chiffre fiable à ce propos. Le compteur du nombre de votants a même disparu plusieurs heures, bien après la fin du vote. La participation se serait finalement établie à 1,6 million contre 2,6 millions en 2011. Quoi qu'il en soit, les deux qualifiés pour le second tour, Benoît Hamon et Manuel Valls, sont repartis en campagne. Après avoir reçu le soutien d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon a reçu celui de Martine Aubry et de ses alliés. Les deux candidats vont débattre demain soir à la télévision. Les incendies.
Non, moi, je veux dire quand même que je continue de croire aux chances de Sylvia Pinel dans cette première
debout. Non, non, François, on n'avait pas compris.
Mais si, pour moi. Pas, non, écoutez, il y a eu des tas de surprises, pourquoi pas
non,
celle-là
c'est pas, ça ne peut pas, je vous expliquerai.
Bon, d'accord.
C'est, alors, parce que
c'est fini, Pinel. C'est fini.
Je sais. Votre appel à Frédéric Poisson aussi pour qu'il revienne dans les primaires de droite, c'est trop tard, François. Je vous expliquerai comment ça fonctionne.
Alors là, vraiment, la politique,
regardez plutôt le problème des pervenches à Paris pour votre billet tout à l'heure.
Des incendies ravagent le Chili en ce moment. Plus de 129 000 hectares de forêt et de culture au centre et au sud du pays sont partis en fumée en quelques jours. La Chine est-elle en pleine rédemption ? Faut peut-être pas exagérer, mais quand même, ça bouge. Le pays est en train de changer profondément sa politique environnementale. Il vient d'abord d'annuler la construction d'une centaine de centrales à charbon et il est en outre en train de construire la plus grande centrale solaire du monde. La Coupe d'Afrique des Nations de football, l'Algérie, qui n'a pu faire que match nul de partout face au Sénégal, est éliminée. Les Fenecs n'ont engrangé que 2 points en 3 rencontres. Le Sénégal, qui termine premier du groupe C, se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. Qualification aussi de la Tunisie, qui n'a pas fait dans le détail face aux Zimbabwe, 4-2. Le mondial de handball, la France a rendez-vous contre la Suède en quart de finale ce soir. Jérémy Bayou a coupé la ligne d'arrivée du 8e Vendée Globe hier soir à 19h40, soit 4 jours, 3 heures après le vainqueur Armel Lecléache. Et puis un mot du tennis quand même en Australie, c'est hyper tendu en ce moment.
Combien
entre Stan Wawrinka et Joe Wilfried Tsonga. C'est tendu parce que Wawrinka envisageait il y a quelques minutes de contacter le superviseur parce que Tsonga le regarde très mal.
Ah oui.
C'est du jamais vu en fait.
Il se plaint. Il lui a dit
arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce que t'as ? C'est un match de tennis, c'est tout.
Ah oui, d'accord.
Et il gagne un 7-0. Voilà. Oui.
Merci beaucoup.
Et c'est en ce moment. Hein.
C'est en ce moment. À l'heure où on vous,
alors, on vous parle.
C'est ça qui est fou. Et ça nous fait concurrence. Ça nous porte préjudice. Voyez, oui. François, oui. Ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, il y a très peu de chances qu'au second tour des présidentielles, ça soit Sylvie Pinel contre Frédéric Poisson.
Mais pourquoi ?
Parce que c'était. Par exemple, si vous avez.
Attendez, vous avez eu la surprise Donald Trump, vous n'avez rien vu venir, Edouard. Le Brexit, vous n'avez rien vu venir. François Fillon, vous n'avez rien vu venir. Je vous parle maintenant d'un second tour.
Jean-Luc Benamias, Bruno Le Maire.
Oui, oui, et vous, ben non. Pour des raisons mathématiques.
Elle a fait 1,5 quand même.
Vous nous assommez avec des chiffres.
Vous avez raison. Je crois que on est vraiment. On est hors sol.
Je crois à la force des idées, vous voyez. Ouais, je ne crois pas aux chiffres.
Hein, vous avez raison. Vous avez raison. Ça, vous êtes un modèle, François.
Merci.
On est avec Bouchta à Marseille ou pas ?
Oui, bonjour, Edouard.
Ça va, Bouchta ? Tu es enroué ?
Eh ben, mon beau, je viens à peine de me réveiller.
Qu'est-ce qui se passe à Marseille ce matin ?
Eh ben, tranquille, il fait beau, il a plus de jours là.
D'accord.
On va arroser le jardin.
Tu as un jardin ?
Oui, j'ai une petite cour.
Ah oui, c'est pas pareil.
Faut pas avec un olivier, un palmier, un citronnier, un figuier, il manque que l'arbadier.
Le ?
J'ai tous les arbres. J'ai tous les arbres qui finissent par yer. Il me manque que l'arbadier.
L'arbadier,
oui. Et dis donc, qu'est-ce que tu. Très bien. Comment ça se passe dans le quartier ? Tu as vu des voisins, des voisines ?
Ah ben oui. Ben depuis que je suis revenu là, d'Italie, là, de chez ma sœur, ben, tu sais, je leur ai manqué. Je suis parti quand même 2 semaines, même plus 3. Alors, il y a du va-et-vient à la fenêtre et chacun me raconte sa petite histoire. Il y a la petite histoire d'un voisin qui a gagné au tiercé ou l'auto, je ne sais pas combien il a gagné. Et depuis, tout le monde est autour de lui. Il a même changé son prénom. Mais ça, il s'appelle Bisou, parce qu'il embrasse tout le monde maintenant. Bisou. Qu'est-ce que je te dis ? Avant, c'était un problème, tout le monde s'est éloigné de lui. Depuis qu'il a gagné, tout le monde l'embrasse.
Tu verras un rapport de cause à effet entre sa richesse soudaine et ses amitiés multiples ? Non.
Et voilà, c'est ça. Mais il est généreux, en plus. Depuis qu'il a gagné, il offre à boire à tout le monde. Boin vert. Même aux musulmans, boin vert. Tous. Il est devenu gentil.
Ça, c'est quoi d'autre dans le quartier ?
Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tranquille, il n'y a pas... Ah, l'abbé Pierre Pêcheur, ça fait 10 ans qu'il est mort.
Oui.
Pêcheur, ma voisine ne le savait même pas.
C'est toi qui.
Ça fait quand même 10 ans qu'il est mort, l'abbé Pierre. Elle me dit, l'abbé Pierre, il est mort. Elle commence à pleurer, l'abbé Pierre. Je dis, pourquoi tu pleures ? Elle me dit, qui c'est qui va nous amener les habits ? L'abbé Pierre. Je dis, non, il est mort il y a 10 ans, ma chérie. Alors elle me dit, oui, mais qui c'est qui va remplacer l'abbé Pierre ? Je dis, comme le pape, il y a la pape 1, pape 2, pape 3, ben, ils vont faire l'abbé Pierre 2. Elle me dit, Inch'Allah. Elle pleurait vraiment, je crois qu'il était mort hier. J'ai dit, non, elle disait à ma belle. Elle m'a dit, il n'y a que lui qui nous a habillés, qui nous a coiffés, qui nous a meublés, qui nous a tout fait, mais ce qu'il avec sa cape de Zorro, ou de la cape de Zorro.
Il y a un centre Emmaüs à côté de chez toi ?
Non, ce n'est pas un centre, le quartier complet, Emmaüs. Je veux dire, à la fin du mois, tout le monde a besoin de quelque chose.
Hein. Oui. Et donc tu es à ta fenêtre et tu écoutes et tu conseilles et tu...
Voilà, ouais, je te jure, si tu viens, je suis à la fenêtre, ma vie. Des fois, je me dis, merde, je suis la mairie, je suis la police, je suis le centre social, je sais pas ce que je suis. Ils viennent me raconter leur vie. Hier matin, à peine j'ouvre la fenêtre comme ça, là, comme ce matin, tu m'as pas appelé, je crois que tu allais m'appeler. On dirait que tu m'as fait le ramadan depuis 2 jours, tu m'appelles plus. Bon, bref. Et elle vient, aïe, Mimi, elle vient de rentrer, ma chatte, que le bon Dieu n'a pas voulu me donner. Mimi, tu t'es où, connasse? Bon, et elle me tape à la fenêtre, elle me dit... Elle m'appelle, je dis, qu'est-ce qu'elle veut? Elle me dit, je veux une cigarette. Je veux passer une cigarette discrètement, on dirait qu'elle m'avait demandé de la cocaïne. Je lui donne la cigarette, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je suis encore enceinte. Je dis, c'est pas vrai. Elle me dit, 4e. Après lui, j'arrête tout. Pêcheur, elle a 3 petits, c'est le 4e.
Ah oui.
Et le 3e, je lui dis, pourquoi tu fais le 4e? Elle m'a dit, le 3e, pêcheur, je ne veux plus toucher la casse. Et ça, à partir de 3h, on ne touche plus rien. Alors là, avant que ça coupe tout, je fais le 4e.
Voilà, merci Bouchta, je vois que ça va, tout va bien dans ton quartier.
Non, tout va bien, une belle vie ici, tu sais, c'est pas la fin du monde ici. Trump, il passe, il trompe pas, il passe pas, on s'en tape. Par contre, Trump, si vous la voyez à Monaco, ma cousine, elle arrange vite, elle te le soigne en 2-2.
Bon, alors on en parlera. De... Merci, donc même quand tout va mal, tout va bien. Merci Bouchta.
Tout va bien, je t'embrasse.
À demain, on t'embrasse.
C'est bien cette histoire d'allô parloir, bis.
On t'embrasse, bisous.
Bonjour Nova.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Pascal Dupont vient de nous rejoindre. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes du matin, Pascal Dupont?
Pas trop, mais j'ai fait un petit effort. Là, je me suis levé très très tôt pour ne pas rater le coche.
Vous êtes un écrivain du jour ou de la nuit?
J'écris dans la journée.
Oui.
Et j'ai travaillé dans une autre vie, comme vous le savez peut-être à Actuel. On travaillait beaucoup la nuit. Le jour, il fallait tout refaire parce que ça n'était pas la route.
Donc c'était, vous aviez cette fameuse bande qui vivait 2 fois plus que les autres, et le jour et la nuit.
Absolument. C'était trépidant.
Thomas Baumgartner vous a lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt.
Oui. Bah en plus, avec cette question-là, est-ce que vous êtes un écrivain du jour ou de la nuit ou de chambre ou de terrain? Et on se rend compte dans ce livre-là que vous êtes un écrivain de terrain. En tout cas, vous y allez sur le terrain dans ce livre-là, Le retour impossible à nos enfants égarés. Vous enquêtez, Pascal Dupont, sur ces jeunes djihadistes français et belges d'une 20aine d'années qui partent en Syrie. Mais en fait, vous êtes surtout du côté de ceux qui les entourent, qui les entouraient avant qu'ils partent. Et en particulier, évidemment, les parents que vous rencontrez en Belgique, en France, des parents qui, en général, ne comprennent rien. Vous êtes en face de gens qui sont totalement sidérés.
En fait, j'avais participé, pour le dire très rapidement, à une campagne d'information du ministère de l'Intérieur où j'avais fait le casting d'un certain nombre de parents qui devaient témoigner du fait qu'ils n'avaient pas vu venir le départ de leur enfant.
C'était des petits films qui étaient diffusés à la télé.
40 secondes, ouais. 50 secondes, et on avait en rush 40 minutes à chaque fois. Et je me disais, il y a vraiment une histoire à raconter. Et donc, je suis retourné les voir, et j'ai creusé, et une chose en amenant une autre, je me suis retrouvé à Bruxelles, dans le fameux quartier maudit, pour les médias de Molenbeek.
Oui, pour les médias, tout, parce que ceux qui y vivent...
Non, en fait, c'est un quartier tout à fait tranquille et sympathique. Et là, je suis tombé dans des associations de parents. Et quand vous parlez de sidération, le truc qui était le plus frappant, c'est qu'ils étaient tous prêts à parler en tête à tête. Et je les prenais à part pour leur parler. Et une fois qu'on branchait le micro et qu'on se disait « on y va, on parle », ils n'avaient plus rien à dire. Ils étaient stupéfaits. Et ou en boucle, je me souviens de la première femme que j'ai rencontrée, une jeune Marocaine, qui était en train de répéter la même chose en permanence en disant « Elle est partie, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. » Et je lui dis « Mais à part ça, elle est partie comment? Pourquoi? Vous l'avez vu ?» Elle était incapable de s'exprimer. Donc il a fallu passer du temps avec eux dans des associations donc, de parents qui étaient tous très mal en point et en gros qui vivent un truc que j'appelle la double peine dans le bouquin, c'est ils n'ont pas vu venir et ils sont partis. 2, ils doivent les faire revenir. Et là, ils sont dans la difficulté la plus absolue parce qu'en Belgique comme en France, les autorités n'acceptent pas de les faire revenir parce qu'ils sont possibles. Ce que racontent d'ailleurs d'autres reporters, essayistes, sont tous des explosifs à retardement. Quoi. Mmh. Donc... Et certains des parents que j'ai rencontrés et que je cite dans le livre sont même accusés de complicité de terrorisme.
Oui, oui, vous racontez que c'est une scène en Belgique, que la police, les fédéraux, que c'est comme ça qu'une des mères en parle, déboulent un jour dans la maison, défoncent la porte, alors même qu'elle dit on n'a pas été aidés non plus, alors que nous sommes victimes du terrorisme. Je crois que c'est un père qui dit ça, nous ne sommes pas des parents de terroristes, nous sommes des victimes du terrorisme.
Absolument. Absolument. Et donc il y a une femme qui, elle, est toujours sur le coup d'une inculpation, une autre au Canada également, qui a créé un truc qui s'appelle Mothers for Life, et qui est extraordinaire, dont le fils est parti. Il était, instable, et il voulait retrouver une raison d'être à travers un islam totalement idéalisé, comme beaucoup qui partent là-bas en pensant qu'ils vont retrouver la vraie nature de l'islam et du Coran.
Mais est-ce que c'est pour ça que le retour est impossible? Parce que c'est le titre de votre livre, c'est que même si les parents réussissent à retrouver la trace de leurs enfants, quand bien même parfois les enfants ont envie de revenir, et même parfois quand ils arrivent à revenir, le retour, c'est le retour à la situation initiale qui n'est pas possible.
C'est exact. Ils ont quitté des quartiers qui étaient difficiles, que ce soit dans la région parisienne ou à Bruxelles ou à Amsterdam. Je suis allé aussi au Danemark, et il y a un quartier là-bas qui est absolument étonnant, parce que c'est un ghetto à la mode ancienne. C'est vraiment, on est dans un pays extrêmement démocratique, ouvert, avec une politique sociale, libérale, avant-gardiste. Et puis, il y a un vrai ghetto. Et ils vivent mal le fait d'être fils d'immigrés et d'être pas intégrés, de pas avoir de job, et que papa et maman gagnent pas leur vie. Et donc, ils rêvent d'un ailleurs, et c'est la Syrie ou l'Irak, et plutôt la Syrie dans les deux dernières années, où ils vont trouver enfin une sorte de fraternité idéalisée.
Alors certains des parents, vous le dites, s'organisent, hein, il y a des associations oui, multiples en Belgique, en France, et certains parents cherchent, vous dites, je crois que c'est un père qui a envisagé d'engager des tueurs à gages pour s'occuper des recruteurs, des rabatteurs.
Oui.
Il y a ce type de réaction aussi.
Oui. Il y a ça, et puis il y a un autre type dont je parle que j'ai pas pu rencontrer parce qu'il était difficile. C'est un Flamand qui lui est passé carrément de l'autre côté de la frontière pour récupérer son môme, et il a été arrêté, il a été battu, il a été libéré, il a quand même ramené son môme.
C'est des enfants de quel âge là on vous dit des mômes, c'est
Très souvent c'est 14-15 ans.
Ah oui.
Les réseaux s'adressent à des mômes de 14-15 ans, mais ça peut aller jusqu'à 22. Et maintenant, on parle, et François Hollande a fait une visite dans le coin pour raconter les enfants d'eux. C'est quand même très marginal, les mômes qui sont au service de Daesh, quoi. Les petits-petits.
Est-ce qu'on peut dire, Pascal Dupont, que dans ce livre, dans ce retour impossible qui paraît chez First, qui est paru il y a quelques jours, vous mettez des mots, en fait, vous aidez ses parents à mettre des mots sur ce qu'ils n'arrivent pas à nommer?
Oui. Je suis très content d'avoir fait ce travail et d'avoir libéré la parole. Certaines des personnes que j'ai rencontrées, deux d'entre elles, se sont mises à écrire aussi. Et on se rend compte que elles ont, les mamans, souvent, plus que les pères qui sont abattus, une volonté de, pas de revanche du tout, mais d'agir pour prévenir. Et ceux et celles que j'avais interviewé initialement dans le casting pour la campagne du ministère de l'Intérieur, ils étaient candidats pour ça. Maintenant, il y a d'autres livres dont une femme que je cite dans ce livre et qui sort un bouquin également. Et je cite une autre femme à la tête de la Brigade des Mères, et elle monte au front, elle dérouille. C'est-à-dire qu'elle va dans les quartiers et elle s'en prend directement aux recruteurs.
Voilà, c'est toute une série de rencontres que vous avez menées, Pascal Dupont, dans ce livre. Le retour impossible à nos enfants égarés, sur la couverture une maison de famille, et un grand fossé, et d'autre côté, de profil, quelqu'un qu'on imagine être un enfant. Donc c'est une histoire que vous nous racontez, et puis qu'il faudra évidemment suivre. C'est chez First Edition, Le retour impossible.
Merci messieurs.
Je vous remercie beaucoup.
Merci Pascal Dupont.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h-9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée en
Dieu.
J'ai été rattrapé par Pascal Dupont dans le couloir qui me dit qu'il est optimiste, qu'il pense qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de départs maintenant au djihad. Donc je suis, parce que j'étais un peu à la fin de cette interview, je me suis dit merde, alors c'est quand même, c'est une vision très noire. Donc je vais mieux. Je vais
oui, ça
mieux.
S'arrange.
Je rassure la France entière. Et vous avez lu la presse ce matin, messieurs.
Oui.
Vous étiez sur le net.
Oui,
il y a
des choses qui
vous ont. François, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors moi, j'ai un nouveau cheval de bataille, parce que vous savez que je prends beaucoup le train, et maintenant, dans le train, chaque fois qu'on arrive en gare, il y a une annonce qui dit qu'il ne faut pas descendre avant que le train soit à l'arrêt devant un quai, ne tentez en aucun cas d'ouvrir les portes. Ouais. Cette annonce est totalement inutile, puisqu'il n'y a pas moyen d'ouvrir les portes. Vous comprenez ce que je veux dire?
Vous voudriez
les ouvrir, vous ne pourriez pas.
Je ne suis pas sûr, je pense qu'il y a des portes. Vous croyez qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas?
Toutes les portes du TGV, en tout cas, par exemple, sans aucun doute, ne s'ouvrent pas. Même quelquefois, le train est arrêté et puis l'autre, le conducteur, il a un petit peu oublié d'appuyer sur le bouton, donc ça ne s'ouvre pas. Et pourtant, on continue de nous dire, surtout, ne descendez pas avant que le train soit à l'arrêt. Ce n'est pas possible. Donc moi, je suis là dans la voiture, non pas dans le wagon, mais dans la voiture, je crie. C'est pas possible, monsieur, madame.
Voilà. C'est un beau combat,
Et les gens se groupent derrière moi. Ils disent, vas-y, t'es un leader charismatique. Vas-y, puis crie. Alors je dis, crie avec moi. C'est pas possible.
François, c'est un combat de longue haleine. Vous vous attaquez à une sorte d'hydre à plusieurs têtes. Vous vous rendez compte que contre vous, il y a les corps constitués, il y a l'administration, vous avez la SNCF, vous avez les syndicats. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, en tant que citoyen seul, bien que vous ayez des gens derrière vous, il me semble maintenant, mais est-ce que vous êtes prêt à mener jusqu'au bout
du combat? Je suis prêt à me battre. Et puis figurez-vous qu'il y a à Nova un journaliste qui a un ami dont le cousin a été une fois dans le même restaurant, Guillaume Pépi.
Alors à partir de
donc
là, ça va aller très vite, bien sûr. Oula. Merci François. Commencez à signer soutien François Rollin, hashtag.
Oui. Mais c'est vrai qu'on se fout un peu de nous, parce que dans le métro pendant longtemps,
on se fout de nous.
On nous avait dit, ne mets pas ta main contre la porte, tu risques de te faire pincer, mon petit lapin.
Oui, il vient.
Eh bien, on n'est pas des lapins, quoi.
Oui,
moi, j'allais chercher des lapins.
Ok, admettons.
Oui, voilà.
Tito.
Oui, alors, les deux zigotos là, qui sont en Australie, qui se regardent dans les yeux et qui vont se coller une trempe à la fin de la journée, ont de quoi se méfier, parce que le petit César Bouchelaghem, qui a 12 ans, est classé international mondial. Alors, il va disputer le tournoi des As alors qu'il a 14 ans. Eh bien, c'est. Ces deux zigotos qui se regardent, ils vont en prendre une sacrée tripotée d'ici quelques années. Bravo, petit César.
Merci. C'était le billet tennis de Tito Atmen.
Oui, moi je voulais dire que le théâtre parle. La nouvelle de rentrée théâtrale a commencé. Et là, dans le Parisien, on demande aux gens comment ils vont au théâtre. Alors beaucoup de gens trichent. Hein, disent, moi c'est l'éducatif, moi c'est la programmation de la cartoucherie de Vincennes et tout ça. Et il y en a deux qui disent, moi je regarde la télévision et ceux qui sont bons à la télévision, eh ben, je vais les voir. Et c'est souvent Laurent Baffy et Fabrice Luchini. Donc voilà. Je tenais à le dire.
Mais voilà quoi, mon vieux.
Et bien voilà, il faut aller à la télévision pour vendre du théâtre.
Moi, j'ai regardé beaucoup le couple Trump. Il y a des images stupéfiantes de la façon dont Trump traite sa femme.
Alors,
où il descend de voiture, il la laisse 50 mètres derrière, il l'oublie dans des trucs, il la tire par le bras, il la met dans le micro. Il y a des images d'une misogynie délirante.
Il y a aussi une parade qui est assez morbide, moi, je trouve. Une parade d'une fanfare avec personne dans les gradins. Et ça, c'est vraiment terrible. Il se plaint, Trump, que les caméras n'aient pas bien filmé. Mais en fait, il n'y avait personne. On ne peut pas rajouter des figurants. Si les gens n'ont pas envie de venir voir...
Vous allez repartir ce débat sur combien y a-t-il de personnes.
Oui, mais il attaque la télévision quand même.
Alors, moi, je vais chercher Timéo. Je vais chercher Timéo avant le journal.
C'est l'enfant, Timéo. C'est ça?
Ah oui,
c'est l'enfant.
L'enfant va arriver, oui.
C'est la rubrique Timéo, Un enfant, un poème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça.
Prendre un enfant par la main.
Voilà, attention.
Voilà, Timéo entre dans le studio.
Par la main.
Ouais, voilà.
Sous nos yeux ébahis.
Bien sûr. Attention.
Timéo est en place. Timéo est devant son micro.
Qu'est-ce que ça va être, Timéo, ton poème?
L'automne de Alexandre Pouchkine.
Très bien. Alors, un petit jingle.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant.
Un enfant. Un poème.
C'est pas le poème de tout le monde, l'automne d'Alexandre Pouchkine. Alors on t'écoute avec grand plaisir.
L'automne. Les bois s'ébrouillent, font pleuvoir ce qui restait de feuilles aux branches dépouillées. Au premier souffle froid, la route s'est durcie. Le ruisseau chantonnant court toujours bien, mais les temps est figé.
T'embête pas, Mathieu. Est-ce que c'est le casque qui te gêne, peut-être?
Je sais pas, je crois.
Ton voisin, oui, enlève ton casque et puis Atmen, arrêtez de faire des grimaces, je vous jure, c'est très désagréable. Moi-même, j'aurais pas réussi à dire même au clair de la lune avec vous en face.
Et mon voisin se hâte de courir ses terrains de chasse avec sa meute. Et les semis tardifs doivent subir sa rage. Et les abois des chiens réveillent les alliés. Alexandre Pouchkine.
Très bien, bah tu vois. Comment ça t'est revenu?
Comme ça.
Tu l'as appris à l'école ou tu l'as appris pour toi?
Je l'ai appris pour moi.
Comment tu avais entendu parler d'Alexandre Pouchkine?
Ben, en fait, c'est la mère qui lisait d'Alexandre Pouchkine et elle m'a conseillé de faire un poème. Voilà.
Et ben, c'était super. Et là, tu vas aller en classe?
Oui.
Très bien. Et Atmen, t'as beaucoup dérangé ou seulement un petit peu?
Un petit peu.
Oui, tu vois, Atmen.
Oui, mais je sais. Mais je vois la concurrence qui arrive. Je vois des grands acteurs qui arrivent comme ça. Je suis un peu jaloux. Alors, je fais des grimaces. Je lui savonne la planche.
Excusez-moi. Bon, allez, un peu de journal. Parce que là, François, vous aussi, vous avez été choqué un peu par.
Parce qu'on a le mal qu'on a fait à Timéo. Et j'ai pensé Timéo Danaos, et Dona Ferrantes.
Ce qu'on pourrait traduire par.
Eh bien, je crains les Grecs, même lorsqu'ils arrivent les bras chargés de cadeaux.
C'est ce que je pensais. Le journal de Thierry. Radio Nova.
Le constat est dur. Un taux d'activité faible, un surchômage persistant, une proportion élevée de décrocheurs. La situation des jeunes sur le marché du travail s'est globalement dégradée. Leur insertion professionnelle est plus compliquée en France qu'ailleurs en Europe. C'est ce que révèle un rapport remis aujourd'hui à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. C'est dans ce contexte que le gouvernement va dévoiler tout à l'heure le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi fin 2016. 400 personnes ont défilé hier dans les rues de Fessenheim contre la fermeture de la centrale nucléaire. EDF et l'État aurait trouvé un compromis sur le dossier de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin, promise à la fermeture par François Hollande. Le conseil d'administration de l'électricien public doit étudier ce matin la convention négociée avec l'État pour indemniser EDF à hauteur d'environ 450 millions d'euros d'ici à 2021. Troisième round judiciaire aujourd'hui dans l'affaire AZF, autrement dit la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945, survenue à Toulouse en septembre 2001. Relaxé en première instance, le directeur de l'usine et la société Grande Paroisse, filiale de Total, avaient été condamnés en appel pour homicide involontaire, un jugement annulé par la Cour de cassation. Troisième procès donc à Paris et non à Toulouse où les deux procès précédents avaient eu lieu. Petit bug du site, cafouillage dans la remontée des résultats, flagrant délit d'exagération. En tout cas, chacun y est allé de son explication autour du chiffre incertain de la participation de la primaire de la gauche. Il a été bien difficile hier d'obtenir un chiffre fiable à ce propos. Finalement, cette participation se serait établie à 1,6 million contre 2,6 millions en 2011. Quoi qu'il en soit, les deux qualifiés pour le second tour, Benoît Hamon et Manuel Valls, se sont repartis en campagne après avoir reçu le soutien d'Arnaud Montebourg. Benoît Hamon a reçu celui de Martine Aubry et de ses alliés. Les deux candidats vont débattre demain soir à la télévision. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron continue lui aussi d'engranger les soutiens. Dans une interview au Parisien ce matin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, ancien membre du PS également, Bernard Kouchner, affirme d'abord avoir voté Valls au premier tour de cette primaire à gauche et il déclare aussi apporter son soutien à Emmanuel Macron. Des incendies ravagent le Chili en ce moment. Plus de 129 000 hectares de forêt et de cultures au centre et au sud du pays sont partis en fumée en quelques jours. La Pologne vient de trouver un nouvel usage au bracelet électronique. Il a décidé de l'appliquer aux divorcés qui ne s'acquittent pas de leur pension alimentaire. Le pays compterait aujourd'hui plus de 300 000 mauvais payeurs, des hommes dans 95% des cas. Le nombre de détenus purgeant une peine pour non-paiement de pension alimentaire était d'environ 3 700, tandis que 1 600 personnes attendaient d'être incarcérées selon l'administration pénitentiaire. Un bracelet électronique, ça coûterait 80 euros, une incarcération chaque jour, c'est 800 euros, je crois. Enfin, en tout cas, en Pologne.
Ah oui. Et vous dites des hommes dans 95% des cas, c'est un chiffre officiel ou bien c'est vous qui l'a inventé pour dire beaucoup ?
Non, c'est un chiffre officiel de la Pologne.
D'accord, moi, j'aurais dit plus.
Si on ne paye pas sa pension, on a un bracelet électronique.
C'est ça.
Voilà.
Mais c'est normal.
C'est pour ceux qui sont condamnés pour ça, parce qu'en Pologne, c'est
j'imagine Eddie Barclay, il ne devait pas marcher.
Mais vous allez sortir de journal, si j'interviens pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Merci Edouard, merci beaucoup. On parlait de la rougeole tout à l'heure, j'ai deux, trois infos supplémentaires sur cette grave épidémie de rougeole qui a donc fait son apparition à Los Angeles. C'est en fait dans la communauté juive orthodoxe. Elle serait due au refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants, malgré la loi qui les obligeait à le faire. Il y a deux ans, il y a eu une épidémie de rougeole qui avait démarré dans le parc d'attractions de Disneyland, donc là aussi près de Los Angeles, et qui avait touché plus de 130 personnes en Californie. 7-6, 6-4.
Prenez-vous, communauté juive orthodoxe. Allez-y, Thierry Paret. Très bien, bravo. Très bien, ils ont besoin de ça. Ils sont pas assez emmerdés. Continuez.
7-6, 6-4, 6-3. Il n'y a pas eu de suspense entre Stan Wawrinka et Joe Wilfried Tsonga en quart de finale de l'Open d'Australie. On parle tennis, bien évidemment. Le Suisse a balayé le Français. Match tendu. Stan Wawrinka s'est plaint pendant la rencontre du regard de Joe Wilfried Tsonga, menaçant de faire intervenir le superviseur de la rencontre. Finalement, ça n'a pas été nécessaire. La Coupe d'Afrique des Nations de football, l'Algérie en rentre à la maison. Les Fennecs n'ont engrangé que 2 points en 3 rencontres. Hier, ils n'ont pu faire que match nul, 2 partout face au Sénégal. Le Sénégal qui termine premier du groupe C se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. Qualification question également de la Tunisie. Je ne sais pas si je vais réussir à aller au bout. Qui n'a pas fait dans le détail hein, face au Zimbabwe. 4 à 2. Les quarts de finale se précisent donc. La Tunisie sera opposée au Burkina Faso. Le Cameroun au Sénégal.
Au Sénégal.
C'est bien parce que vous aviez ce qu'on appelle un chat dans la gorge qui n'est pas un animal, qui est simplement de la salive qui est coincée ou la glotte qui est à l'envers. Merci Thierry Paré. Je trouve très intéressant cette histoire de plein de tennisman, de son gars, comment s'appelle l'autre tennisman ?
Wawrinka.
C'est-à-dire dans un monde qu'on annonce comme étant de plus en plus violent, agressif, et bien un tennisman ne supporte pas qu'on le regarde mal. Je trouve ça poétique, je trouve ça bien, je ne peux pas jouer.
Il avait l'œil du
tigre. On dit jouer au tennis, on ne dit pas se battre au tennis. Je ne peux pas jouer avec toi parce que tu as l'air méchant, je trouve ça bien.
Ouais. Mais là, je sens que vous vous mettez du côté de notre star nationale, Tsonga. Moi, je me mets plutôt du côté de Wawrinka et la douceur de vivre suisse, la gentillesse suisse. Et il y a quelque chose.
Et moi, je ne suis pas d'accord, monsieur, parce que je pense que Tsonga avait l'œil du tigre. Il voulait vaincre et avec les yeux, il lui avait dit « je vais te battre ». Et peut-être qu'il a eu peur. Il l'a déstabilisé. Non, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'arriver avec la rage de vaincre, non ?
Bon. Et l'envie de perdre, c'est pas beau, l'envie de perdre, d'arriver avec les yeux, genre « vas-y, bats-moi ». Je suis ta chose, excusez-moi, je vais sortir. Je suis fatigué. Non, mais il y a le jour, il n'y a pas la météo, Tito. Non, il y a Jack Souvent d'abord.
Il ne parle pas bien français, là, c'est lui qui parle bien. Ouais. On est. Je ne sais pas si on est à l'antenne.
Oui.
Écoutez, il y a trois hommes, quatre hommes qui s'apprêtent à descendre dans les entrailles de Paris, dans le ventre de Paris. Des grandes bottes, des casques avec des. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des lampes pour voir en dessous. Un groupe électrogène qui, en fait, va. Éclairé en dessous. Et puis, donc là, vous avez installé un trépied ?
Oui, on a installé un trépied. Maintenant, on va équiper. On va mettre les chaussures, les casques.
Il y a combien de profondeur, là, pour descendre ?
5 mètres.
5 mètres, à peu près. Et vous allez faire quoi sous la terre ?
Aujourd'hui, on va faire une petite finition, parce qu'hier, on s'est cassé tout ça. On va faire une petite finition, c'est tout.
Une finition de quoi ?
Finition de quoi ? Alors, Edouard, il n'a pas de casque parce qu'il a déjà beaucoup de matériel autour de sa tête.
Donc, essayez d'en savoir plus, Jack. Qu'est-ce qu'il faut finir à 5 mètres sous le sol dans Paris aujourd'hui ?
D'enduit, c'est quoi ?
Ouais, des enduits. On va ramasser toutes les choses qui étaient en bas, là. Parce que déjà, on a fini. Les boulots et les plastiques, fini.
Pour descendre en bas, vous m'avez dit qu'il faut une combinaison, il faut être vacciné. Qu'est-ce qu'il faut encore pour descendre ?
Ouais, une combinaison, une boîte, un casque armé, détecteur de gaz. C'est tout.
Pourquoi vacciner ? On peut être mordu par les rats ?
Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'on trouve beaucoup de rats en dessous ?
Ouais, des rats.
Ça vous fait marrer, mais moi, vous êtes bien
con.
Ouais, chaque fois. Chaque fois, il y en a qui sont méchants.
Ah oui.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les souterrains, dans les sous-sols parisiens à moins 5
mètres ? Qu'est-ce qu'on trouve en dessous ? On trouve des choses pas possibles ou des
gens,
choses quoi
Des gens. Je n'ai pas compris là.
Qu'est-ce qu'on trouve en dessous ?
Oh, il y en a tout ce qu'il faut là.
C'est-à-dire ?
Eh, des caca, des. Tout.
Oui.
Alors ici, alors on est pris en photo. C'est un petit peu comme des mineurs qui descendraient. Ils sont très très équipés. Et en dessous, là, je suis juste au-dessus du trou. Il y a 4-5 mètres, il y a une échelle, mais en plus, ils ont un harnais pour les protéger. Et en dessous, ils vont s'occuper de faire l'enduit des tunnels, en fait.
Il y a des trésors, il y a des ossements.
J'ai demandé s'il y avait des graffitis ou des hiéroglyphes ou des écritures anciennes. En tout cas, on voit toutes les strates de la ville en sous-sol et c'est assez beau. Parce qu'on voit d'abord la terre, le bitume, ensuite les différentes couches de terre et puis ensuite... un conduit en ciment.
Il y a des animaux, il y a des gens d'autrefois.
Je suis pas dedans.
Mais mon vieux, allez-y. Mais vous êtes. Qu'est-ce que le mec il est en dehors ? C'est le problème du journalisme à la française. Il est en dehors. Il dit voilà, il envoie d'autres gars. Allez-y, mon vieux, tu descends, Jack Souvent. Tu descends.
Il est pas équipé.
Je m'en fous.
En dessous, on trouve quoi ? De la merde.
Eh ben oui, ben c'est des si on creuse un peu.
On est là pour faire les radiers, les fonds de. Nettoyer quoi. Et les entrailles, c'est tout ce que tout le monde déverse.
C'est les intestins de la ville, c'est le. C'est le système digestif de la ville, bien sûr.
Il y a peut-être les responsables de la première du PS qui sont en dessous de tout en ce moment.
Combien de temps vous allez rester en sous-sol ?
Oh pardon, non, je sors.
Ça dépend des travaux qu'il y a à faire. On peut rester toute une journée. Normalement, on doit travailler pendant une heure, remonter à chaque fois pour pouvoir rester un peu d'air et redescendre parce qu'il y a plein de gaz en dessous.
Ça pue très fort ?
Ça sent très mauvais en bas.
On travaille pendant une heure et on remonte pendant une demi-heure pour pouvoir respirer. Avant, on descend. C'est un peu les baleines urbaines. Tout à fait, comme vous dites. On est les baleines, comme vous dites. C'est nettoyer la merde des autres. Et c'est très mal payé à cause de ça.
Ah oui.
On n'est pas reconnu comme... c'est, normalement, ça doit être de la pénibilité. Mais pour l'instant, on n'a rien eu. Quoi.
Moi, je vous reconnais. Je suis avec vous. Je vois votre boulot. Je sais que vous, vous allez descendre. Là, je vous reconnais bien.
Ah ben oui. Heureusement que vous êtes là pour témoigner tout ça.
C'est bien d'être là pour témoigner.
Même le patron, il ne vient pas nous voir. Donc, c'est très difficile pour nous. C'est beaucoup même. Donc, avec le froid qu'il fait, normalement, on doit être au chaud chez nous. Parce qu'avec ce métier, c'est tout pénible, quoi.
Vous en...
Ouais, je mets tout le temps.
Vous en avez marre, monsieur, là ?
Vous mettez les bottes pour descendre, vous voir comment que c'est. Il y a les rats, il y a les petits voisins en dessous. La merde des gens, il faut le pousser, il faut nettoyer. C'est un travail.
Il y a les petits voisins en dessous ?
Les voisins, c'est les rats. Il y a les rats, mais c'est plein de microbes en dessous, en fait. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, sinon, ce genre de boulot, c'est pas un boulot qu'on peut faire. On va dire qu'on aura une retraite paisible, quoi. Parce qu'il y a de la merde, il y a trop en dessous, hein. On est exposé à tout ça aussi, il faut se dire. Quoi. Et il va falloir une amélioration. Il y a des camions qui peuvent le faire. Mais on est obligé.
Là, c'est encore les humains.
Toujours. Les humains qui payent pour tout.
Merci, monsieur. Voilà. Merci voilà, de plonger. Ça, ouais. Merci de plonger pour nous.
Le premier descend et puis voilà, le second.
Plonger dans la merde, dans les rats, dans les intestins de la ville. Voilà. Là où plus personne ne va voir et puis avoir le sourire quand même. Merci, monsieur. Pardon ?
Ça s'appelle pour pouvoir, en cas où il y a un danger.
Oui, un homme de surface s'appelle. Voilà. Merci, messieurs. Bonne chance à vous.
Ça vous aime. Vous vous êtes bien défilé, Jack, souvent. Hein. Ça, je vous ai connu plus vaillant. Hein. Dès qu'il y a une jeune fille qui lit un livre dans le métro, là, vous êtes là. Quand il y a des mecs qui mouillent la chemise, qui descendent dans les intestins, vous n'y allez plus.
Je suis pas trop vacciné, je crois.
Tito, faites-nous une météo flamenco un petit peu, s'il vous plaît. C'est un enchaînement radical. Voilà, c'est les enchaînements, c'est la vie, c'est comme ça.
Il y a du soleil dans toute la France, sauf à Amiens, à Sedan, à Beauvais, à Meaux et Compiègne, où on attend de la neige. Sinon, les températures sont... À Cherbourg, entre 3 et 9. Le Havre, entre 1 et 6. À Strasbourg, entre moins 6 et 2. À Grenoble, entre moins 4 et 3. À Marseille, 5 et 13. À Bordeaux, moins 2 et 9. À Biarritz, entre 5 et 6. Et Paris, entre moins 5 et 4.
Elle était en colère, la météo Tito, après le cri du cœur de ce mec qui descendait dans les entrailles de Paris, qui avait ce cri du cœur sur lequel c'est on poignant, peut absolument rien dire. Ouais. Et puis derrière, il y a Tito qui crie sa météo en colère. C'est bien ce matin.
Et les rats dans tout ça ?
On
il faut, est en colère aussi, oui, oui. Comme il les dérangeait peut-être.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission ? Mais c'est beaucoup trop court.
Vanessa Krissev et Elodie Hu, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que le Réchaud ?
Ah. Le Réchaud est une association qui crée du lien à travers la cuisine entre les populations locales et les migrants sur les camps de réfugiés et dans les lieux d'accueil de réfugiés en France et en Europe.
Comment ça a commencé ?
Par une histoire d'amitié avant tout. Le projet vient de Vanessa et elle a rassemblé autour d'elle une dizaine d'amis, dont moi, qui suis chef cuisinière et qui l'aide à organiser aussi.
Vous étiez chez vous, Vanessa ?
J'étais dans mon lit.
Oui. Ah bah c'est gentil. C'est une mise en situation qui me fait plaisir.
J'ai eu un coup de fil qui a fini de m'achever.
Oui.
Et en fait, la révolte, la pulsion de révolte a fait naître le projet d'abord dans mon esprit. Et c'était la condition sine qua non pour que ce projet voie le jour. C'était d'avoir Elodie qui me dise oui. Et elle a dit oui.
Alors ça a commencé dans le camp de Grande-Synthe. Hein, dans le Nord.
Enfin, ça a commencé déjà par un crowdfunding qui nous a permis de rassembler les premiers fonds nécessaires à acheter un food truck.
Alors vous, au début, vous étiez chez vous, vous avez dit « je dois faire quelque chose », vous suiviez les actualités, vous étiez chez vous.
Ouais, en gros, c'est ça. On voulait retravailler ensemble avec Elodie. Et puis, en fait, il fallait que ça ait du sens, étant donné l'actualité. Et puis, c'est parti du principe et de l'idée que, de l'évidence, en fait, que l'accueil d'un invité passe aussi et avant tout, peut-être, par la cuisine. Et que c'est notre métier, entre autres. Et du coup, cuisiner pour souhaiter la bienvenue, ça nous a semblé une évidence.
Alors, bienvenue, invité, sont des mots qu'on entend rarement, évidemment, ouais. dans ces cas-là, dans ces histoires de migration. Donc, vous avez réuni une somme d'argent. Vous vous êtes installé dans ce camp de réfugiés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
On est venu faire en deux temps. Donc, une première fois, c'était les inviter à notre table. Donc, on a cuisiné pour eux. C'était notre volonté. Donc une cuisine végétarienne faite par des chefs. Et l'après-midi, on encadrait des ateliers de cuisine. Donc là, c'était pour aller à leur rencontre, créer du lien et aussi et surtout apprendre de leur cuisine qu'on connaît finalement si peu en France.
Alors c'est ça maintenant aussi, c'est que vous vous occupez aussi de formation maintenant?
Alors, c'est pas vraiment de la formation, c'est vraiment être un trait d'union entre les populations locales et les migrants pour que y ait un échange qui se crée un peu différemment et autour de ce partage, de ce cadre qui est quand même relativement structurant et puis aussi d'un défi qui est de produire ensemble un nombre de repas qui monte jusqu'à 350, donc avec des gens qui sont pas cuisiniers et dans un espace qui est quand même très frugal puisque c'est un camp ou un lieu d'accueil avec une cuisine qui est pas une cuisine collective. Mais l'idée, c'est de se retrouver autour de, dans cette joie et dans cette bonne humeur et autour de ce langage universel qu'est la cuisine pour apprendre à se parler autrement.
À l'heure où on se parle, là, c'est quelque part, là, vous êtes en train de... Il y a des gens...
Là, c'est à Radio Nova.
Là, c'est à Radio Nova, mais vous allez ces jours-ci, là, vous êtes en action, là?
À Paris, et on repart en mission. Donc, justement, on lève des fonds régulièrement. L'idée, c'est de faire un tour d'Europe, vraiment, et d'aller faire un état des lieux de l'accueil des réfugiés partout en Europe. Là, on a produit 10 500 repas. On a fait 10 500 repas en 3 semaines, donc à peu près 500 repas jour. À Paris, on a aussi organisé 2 distributions, dont une pour Noël, un repas érythréen et une bûche de Noël au CHU Jean Carré avec Emmaüs Solidarité. Et ensuite, on est parti en maraude distribuer à différents points dans Paris. Là, l'idée, c'est de repartir d'abord à Grande-Synthe, puis ensuite à Arras, en Belgique.
Et on organise du coup un dîner caritatif le 13 février sur la péniche de la Nouvelle-Seine pour préparer notre départ en mission fin mars.
Qu'est-ce que vous avez découvert comme cuisine locale que vous ne connaissiez pas? De quel pays?
Principalement la cuisine syrienne, je dirais.
Irakienne, kurde. Kurde.
Ouais.
C'est quoi? Dites-moi des plats.
Le dolmas.
Dolmas, fabuleux.
Les falafels.
Revisiter les keftas qu'on connaissait aussi.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à venir chez vous pour manger, qui vous ont aidé à faire la cuisine et qui vont trouver du travail comme cuisinier en France?
Oui.
Et oui. Oui, c'est le cas.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, que ça remplace un peu, je ne sais pas, moi, il y a 20 ans, j'étais à Nova, il y a plein de gens qui avaient des idées artistiques, qui voulaient chanter, faire des trucs. Maintenant, j'ai l'impression que le bénévolat, l'engagement, cette façon d'être citoyen est aussi artistique et aussi inventive que quand on s'exprimait dans la musique ou l'écriture.
C'est vraiment une histoire de création collective. On est grosso modo, toutes artistes. Moi, je suis aussi actrice. Et dans l'association, et c'est pour ça aussi d'où cette scène partagée, ce plateau humour du 13 février, on a des artistes humoristes, des actrices, des musiciens, enfin vraiment c'est un lieu de partage et d'histoire qu'on écrit ensemble.
Merci mesdemoiselles, mesdames. Roland, Kélif, des questions?
Elles nous ont amené des petits muffins à la noisette et aux amandes, c'est délicieux.
C'est pas une question.
Je vais faire un petit compliment.
Pas, François.
Oui, elles nous ont amené des muffins à la noisette et aux amandes. Est-ce que c'est délicieux?
Voilà. Là, c'est une question. Ça s'appelle le réchaud, mais avec un O. Donc, une très belle faute d'orthographe, une façon d'accueillir les gens en leur montrant notre langue d'une façon un peu... Donc, leréchaud.com.
Oui, notre site internet.
Et si on y va, on voit quoi, là?
Nos informations, les prochains départs, nos vidéos.
Eh bien, on va vous suivre,
et
alors.
Et si vous voulez venir vous joindre à nous pour le dîner caritatif du 13 février, les places sont en vente sur WizEvent.
OK, leréchaud.com. Merci, Vanessa Krissev et Elodie Hu.
Oui.
Ah, mais moi, on ne me met pas les accents, alors à partir de là. J'embrouille avec Robert Rue, qui était un ami.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Marie,
oui.
Vous êtes là, vous êtes entrée.
Oui, je m'assois comme ça.
Vous vous asseyez, vous êtes bien installé.
Non, je suis pas terrible. Attends.
Vous avez besoin de votre petit confort. Hein,
oui, j'aime bien, parce que sinon, après, déjà que je bouge dans tous les sens, je suis mal assise.
Comment elle te mène?
Je vous laisse, j'arrive.
Oui, tu sors. Tiens.
Il s'en va.
Tu sors.
On va manger des muffins.
Alors, chère Marie, sur quoi avez-vous planché ce matin? Qu'est-ce qui vous a subjugué?
Eh bien, d'abord, je me suis dit que j'allais faire attention à une chose dans cette revue de presse. C'est Les Échos qui m'ont glissé cette précaution à prendre dans une chronique d'un livre de Denis Grosdanovic, Le génie de la bêtise. Ça s'appelle le livre. Et la précaution à prendre, eh bien, c'est celle de faire attention à cette phrase de Monsieur Dac. Le parfait crétin est celui qui se croit plus intelligent que tous ceux qui sont aussi bêtes que lui. Donc, je vais essayer de pas...
Bon.
Voilà, je tâcherai donc de ne pas être le parfait crétin et de faire attention à mes certitudes. Si on en croit Stéphane Foucard dans Le Monde, il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment fait attention à ses certitudes, qui ne s'en est pas vraiment départi. C'est Ruth Elkrief pendant le premier débat sur la primaire de Galles la Gauche, quand elle a demandé à Benoît Hamon, lors du premier tour donc, de cette primaire, est-ce qu'il ne faut pas dire la vérité aux Français que l'environnement, ça coûte plus cher pour le portefeuille. Puis elle a enchaîné, est-ce que mettre fin au diesel, eh bien ce n'est pas une question de bobo. D'après Stéphane Foucard, elle a utilisé ce fameux argument réduction ad bobotum, qui est de réduire pas mal de précautions sanitaires à des lubies de gugus qui aiment le vélo et les produits bio. Voilà. Elle a un argument d'ailleurs qui est souvent compliqué à contrer. Pire, elle présente comme une vérité incontestable celle qu'il faut dire aux Français, le fait que la protection de l'environnement coûte cher. Elle ne pouvait pas prendre pire exemple que le diesel, dit Stéphane, qui d'après certains instituts, le diesel coûte lui-même très très cher. 100 milliards par an, c'est le calcul un peu large que ces instituts font. 7 milliards pour ceux qui calculent vraiment à la baisse. En tout cas, ça coûte cher. Et il reprend, Stéphane Foucard, le vieil exemple de l'amiante, longtemps présenté comme absolument indispensable, dont on ne pouvait se séparer, où ça aurait coûté vraiment trop cher par la presse également, avant qu'on ne se rende compte que les malades de l'amiante, eh bien, coûtent en fait à la France plus cher que l'amiante elle-même. Au final, tout le monde y a perdu. Tout le monde perd, c'est aussi le constat de John Christensen, fer de lance de la lutte contre l'évasion fiscale. C'est le combat de sa vie, ce fils de millionnaire danois qui vivait justement en paradis fiscal pendant son enfance sur l'île de Jersey et dont Le Monde encore a tiré le portrait. Il a bien peur d'avoir gagné une bataille, John Christensen, celle de l'opinion, tout en perdant la guerre. À force de mettre en lumière l'évasion fiscale, il observe que les pays ont tout simplement eux-mêmes baissé leurs impôts aux sociétés drastiquement. Les pays se mènent une guerre fiscale. Il y a moins d'évasion fiscale. Il y a également moins d'impôts. C'est kiff-kiff bourrico. Ça, c'est de moi. C'est pas dans Le Monde.
C'est de vous, ça, oui.
Résultat, la mondialisation fait beaucoup de perdants. Des perdants qui votent pour Trump et le Brexit. Trump qui a promis de baisser encore les impôts sur les sociétés et qui, double magie, est lui-même un fier évadé fiscal. Le serpent se mord puissamment la queue. Et puis John Christensen, eh bien, lui,
aussi,
il ne sait plus très bien avec quelle certitude il peut lutter. Alors il y en a qui ont compris un tout petit peu avant l'humanité que la compétition brutale n'est pas toujours la bonne solution. Ce sont les virus. Dans un article du Figaro qui commence avec le verbe papoter, vous n'imaginez pas tout ce qui papote en vous, c'est comme ça que ça commence. On découvre que des chercheurs israéliens ont trouvé la preuve que les virus communiquent entre eux avant d'attaquer. Quand ils papotent, les virus décident de ne pas tuer tous leurs hôtes d'un coup et savent apparemment que tous les tuer, eh bien, ça les empêcherait de se multiplier et ça conduirait finalement tout droit à leur disparition. Coopérer pour ne pas s'auto-détruire dans le sang et les larmes, c'est un petit message des virus ce matin dans cette revue de presse. Et puis en parlant de virus et de maladies, je terminerai un petit peu hors sujet sur cet article de La Croix qui nous dit qu'on trouve tous les jours des facteurs qui pourraient mener à Alzheimer. Le dernier en date, eh bien, ce serait de ne pas se brosser les dents. Ça pourrait augmenter les risques de démence. Ils ont fait comme ça des corrélations un peu bizarres entre le fait de ne pas se lever les dents et le fait qu'il y ait 65% des gens qui ne se lavent pas les dents, qui augmenteraient, enfin qui auraient des risques plus
donc c'est un argument
fou
à dire aux enfants, lave-toi les dents, sinon voilà, tu vas devenir
sinon
dément.
Sinon c'est Alzheimer. On apprend aussi qu'il vaut mieux dormir sur le côté, mais sans ronfler. Attention quand vous dormez. Bref, une centaine d'ordres et de contre-ordres différents qui risquent de vous pourrir la vie avant qu'Alzheimer s'en charge.
Marie Missé, merci, j'y vois plus clair.
Oui.
Je crois à nouveau en la vie. J'ai l'impression que vous avez ouvert les portes de la perception. Vous avez ouvert une grande fenêtre sur la connaissance, la connaissance de soi et du monde. Et vous me disiez vous-même, en préparant cette émission, le plus court chemin de soi à soi passe par autrui.
Et par soi.
Non, ça veut dire le contraire. Je dis le contraire. Tu ne peux pas, à ce moment-là, comme on avait dit à la réunion du 12, me contredire à ce moment-là. Et c'est le moment où Rolin disait, tel qu'on l'a préparé.
Oui, ben je disais, il y a certainement un compromis entre vos deux positions, bien sûr.
Voilà.
C'est-à-dire, le plus court chemin entre soi et soi passe par soi, tout en ne passant pas par soi.
Et à ce moment-là, la réunion Atmen concluait par...
Je peux avoir un café,
voilà,
s'il vous
merci.
Plaît.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Le souffle. Oui. Chaque jour de la semaine, des êtres humains s'expriment, mais le mardi, c'est le jour de l'animal du mardi. Une rubrique très appréciée, signée François Rolin.
Oui, dans le cadre de cette série L'Animal du Mardi, après le tapir, vous vous en souvenez, et le chamois, ce matin, le caillou. Alors, à la différence de la plupart des animaux, le caillou n'a ni squelette, ni appareil digestif, ni appareil locomoteur. En conséquence de quoi, le caillou n'a pas vraiment d'allure, il ne mange et ne boit rien, et il ne bouge pas. Du tout, Edouard. Hein. Du tout, du tout. Alors, fait peu connu, le caillou s'accouple pour se reproduire, mais une fois seulement tous les 3 milliards d'années. Et la dernière fois, c'était il y a 2 milliards d'années. Donc, il faudra attendre un petit peu pour assister de nouveau à de torrides scènes d'accouplement de caillou. Le caillou peut-il servir d'animal de compagnie ? C'est pas une question. Eh bien, tout à fait. Il est alors recommandé d'en adopter plusieurs, 300 ou 400 par exemple, et de les installer bien à plat et bien au calme dans l'allée du garage. Hein ? Alors, contrairement aux chiens et aux canaris, le caillou ne fait du bruit que quand on marche dessus. Ça, il faut le savoir. Le petit plus de Nova, maintenant, à Los Angeles, il est prudent de faire vacciner ses cailloux domestiques contre la rougeole. Voilà, c'est tout bête.
Merci François, comment ça va en ce moment, cette petite santé hein, ce qui est la petite santé, ça va
et bien vacciné, ouais. François.
Et ça, il est bien, avec son petit caillou.
Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a entendu
oui,
là
on a des cailloux, c'était des races de cailloux. Merci d'accord. Le journal de Thierry Parel. Il est 8h30 et 44 secondes. Je vous souhaite une bienvenue dans la vie réelle, la vie du jour qui se lève.
Troisième round judiciaire autour aujourd'hui dans l'affaire AZF, la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945, hein, survenue à Toulouse en septembre 2001, relaxé en première instance le directeur de l'usine et puis la grande société, Grande Paroisse, plutôt filiale de Total, avait été condamnée en appel pour homicide involontaire, un jugement annulé par la Cour de cassation. Troisième procès donc à Paris et non à Toulouse où les deux procès précédents avaient eu lieu. D'ailleurs, ça a fait sortir de leur gond certaines familles de victimes, hein, sinon toutes, qui envisagent de manifester à Paris ce matin. Rien à voir, mais autre manifestation à Fessenheim hier. Plusieurs centaines de personnes ont défilé contre la fermeture de la centrale nucléaire du même nom, la centrale de Fessenheim. EDF et l'État auraient trouvé un compromis sur ce dossier de la centrale du Haut-Rhin, promise à la fermeture par François Hollande. Le conseil d'administration de l'électricien public doit étudier ce matin la convention négociée avec l'État pour indemniser EDF à hauteur de environ 450 millions d'euros d'ici 2021. Les deux réacteurs doivent fermer ou être mise à l'arrêt l'année prochaine. Un taux d'activité faible, un surchômage persistant, une proportion élevée de décrocheurs. La situation des jeunes sur le marché du travail est globalement dégradée et leur insertion professionnelle est plus compliquée en France qu'ailleurs en Europe. C'est ce que révèle un rapport remis aujourd'hui à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va dévoiler tout à l'heure le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi fin 2016. On en vient à la primaire de la gauche. Dimanche, il y avait 400 000 votants à midi. 1 million à 17h, 2 millions après 20h, 1,2 million après minuit, puis 1,6 million à 10h hier matin. Donc petit bug du site, cafouillage dans la remontée des résultats, flagrant délit d'exagération, chacun y est allé de son explication autour du chiffre incertain de cette participation à la primaire et du nombre de bureaux de vote aussi d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les deux qualifiés pour le second tour, Benoît Hamon et Manuel Valls, sont repartis en campagne. Ils vont débattre demain soir à la télévision. Benoît Hamon a reçu le soutien d'Arnaud Montebourg, ça on le sait, mais également celui de Martine Aubry et de ses alliés. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, continue à engranger les soutiens. Dans une interview au Parisien, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy et ancien membre du PS, Bernard Kouchner, affirme avoir voté Valls à la primaire de la gauche et déclare apporter son soutien à Emmanuel Macron. Des incendies ravagent le Chili. En ce moment, plus de 129 000 hectares de forêt et de culture au centre et au sud du pays sont partis en fumée en quelques jours. La présidente Michelle Bachelet a décrété l'état de catastrophe naturelle dans les régions concernées. Gazon jauni, grilles rouillées, cambriolage en série. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mythique stade Maracanã de Rio au Brésil, refait à neuf hein, pour plus de 350 millions d'euros à l'occasion du dernier mondial de foot, est à l'abandon, plongé dans l'obscurité, il n'y avait plus d'électricité la nuit. Pourquoi ? Eh bien parce que le concessionnaire privé du stade est en conflit ouvert avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui en avait la charge ces derniers mois. Selon le concessionnaire privé du Maracanã, le comité olympique n'aurait pas remis le stade dans l'état où il l'avait trouvé avant les Jeux Olympiques. 7-6, 6-4, 6-3, il n'y a pas eu de suspense entre Stan Wawrinka et Joe Wilfried Tsonga en quart de finale de l'Open d'Australie. On parle tennis bien sûr, le Suisse a balayé le Français, un match tendu. Wawrinka s'est plaint pendant la rencontre du regard de Joe Wilfried Tsonga menaçant de faire intervenir le superviseur de la rencontre. La Coupe d'Afrique des Nations de football, l'Algérie rentre à la maison. Les Fenech n'ont engrangé que 2 points en 3 rencontres. Hier, ils n'ont pu faire que match nul 2 partout face au Sénégal. Le Sénégal, lui, il termine premier du groupe C, il se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. Qualification également de la Tunisie hein, dans le même groupe. groupe C, qui n'a pas fait dans le détail face au Zimbabwe. 4 à 2, les quarts de finale, il se précise donc. La Tunisie sera opposée au Burkina Faso et le Cameroun sera opposé au Sénégal. Le mondial de handball, place au quart de finale. La Hongrie sera opposée à la Norvège à 17h. Ensuite, la France sera opposée à la Suède à 19h. Les deux derniers quarts opposeront la Slovénie au Qatar et l'Espagne à la Croatie à 20h45. Les suites du Vendée Globe, Jérémy Beyou a coupé la ligne d'arrivée hier soir à 19h40, soit 4 jours et 3 heures. Après le vainqueur Armel Lecléache, Jérémy Beyou est troisième. Et puis un dernier mot pour vous signaler quand même que la pollution persiste dans les régions concernées, c'est-à-dire celle d'hier, notamment l'Île-de-France où la circulation différenciée est maintenue aujourd'hui et ce sera aussi le cas demain.
Merci Peter. Jack Souvent a fait beaucoup de bien ce matin parce que d'abord il a donné la parole à des gars qui dorment dans un centre de réinsertion pour anciens prisonniers. Et puis après on est parti avec les éboueurs, les nettoyeurs d'égouts qui en avaient gros sur la patate qui sont exprimés tout à l'heure. C'est bien Jack parce que souvent on vous accusait d'être très superficiel. Hein, on vous accusait
d'être... J'ai fait un effort. Mais
on veut des fleuristes maintenant, tu vois, des fleuristes et boulangers.
Oui, bah là je me rattrape, je suis dans une boutique qui s'appelle Bonheur des Îles et alors je suis avec, comment vous appelez monsieur ?
Pierre Bonin.
Avec Pierre, il y a à peu près une centaine, je sais pas, 500 huiles différentes, il y a des bougies en forme de sexe, il y a du bois bandé, il y a des petites choses, des petites merveilles ici.
Si, il y a des sirops pour le sexe.
Oui.
Exemple.
Je comprends. Les sirops pour le sexe, oui. Bonjour Pierre Bonnat, dites-moi, quelle est cette affaire de bougies en forme de sexe dont on parle dans votre boutique ? Est-ce que ce sont, une fois qu'elles sont allumées, est-ce que le sexe fond ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a plusieurs formats ? Est-ce qu'il y a plusieurs usages ? Est-ce qu'on est que sur le sexe masculin ? Est-ce qu'il y a le sexe féminin ? Est-ce qu'il y a du sexe d'autres sexes ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pierre Bonnat ?
Bonjour. Il y a les deux, hein, sexe masculin et féminin.
Très bien, il y a deux... Alors, tout
surtout,
est...
surtout oui. Pardon, il y a une bougie... Donc les bougies sont quand même dressées, hein, les sexes sont dressés.
Oui, tout à fait.
Il y en a une qui est rouge, une qui est noire. Bah, quelle est la signification ?
La noire, c'est pour quelqu'un qui court à droite et à gauche. C'est pour le calmer, qui reste à sa femme. Et celle en rouge, c'est pour que quelqu'un qui ne donne pas retrouver...
Je comprends bien, Pierre Bonin. Est-ce que vous êtes là à l'écoute des femmes et des hommes qui ont des problèmes horizontaux, des problèmes de verticalité ? Est-ce que vous êtes un homme qui portait secours aux problèmes sexuels du couple, Pierre Bonin ?
Oui, bien sûr, je reçois des gens tous les jours. Ces gens de problèmes, c'est tous les jours.
Qu'est-ce que vous entendez le plus ? Par exemple ?
Les hommes comme les femmes, hein. Oui. Moi, je suis là pour les conseiller, de dire voilà, ça c'est ça, il faut prendre ça, il faut faire ça comme ça.
On peut parler de magie blanche, de magie noire, on peut parler simplement de petits conseils psychologiques, dans votre cas, Pierre Bonin, avec ses bougies.
Ben, les deux sont mélangés. Hein. Les deux sont mélangés, magie noire, magie blanche.
Pierre Bonin,
il y a des feuillages un peu partout.
Oui, oui, il y en a aussi. Oui.
Oui, un petit peu de tout. C'est vraiment une maison spirituelle.
Pierre, qu'est-ce que Jack vous a demandé en confidence avant qu'il soit à l'antenne ? Je crois qu'il vous a demandé un produit particulier, vous pouvez le révéler.
C'est la première chose qu'il m'a demandé.
Oui.
Et de lui montrer des produits pour faire bander les hommes.
Oui, voilà.
Et
voilà.
Pour les femmes.
Bah, c'est Jack. Du bois bandé, il a pris une bouteille de bois bandé.
Pierre Bonin, est-ce que vous travaillez avec... Souvent, on a des petits prospectus dans Paris ou ailleurs. Si ta femme, elle est partie, elle revient. Si tu es malade ou si tu gagnes au loto, est-ce que vous croyez un peu dans ces mages-là, dans ces magnétiseurs-là
Bien sûr, sans ça, je ne serais pas là.
Oui.
Je suis croyant et je crois. Et ça marche.
On n'est que sur du problème sexuel, on est aussi sur du problème d'argent, de loto, de tiercé, de travail.
Oui, il y a des produits pour, et il y a des gens qui gagnent vraiment.
Mais là, on n'est plus dans le domaine du sexe, on est plus dans un petit cheval ou une petite bougie loto, que dans la bougie
pour,
zizi.
Il y a des bougies pour, il y a des prières pour, il y a des petites fioles, c'est fait spécialement pour ça, pour le jeu.
Alors monsieur, tout en respectant votre pratique, je vais vous demander maintenant, on va tous se lever dans le studio.
Oui.
Est-ce que vous pouvez faire une incantation qui irait jusqu'à tous les auditeurs de Radio Nova, de chez vous ? Après, vous demanderez la somme correspondant à votre intervention à Jack Souvent. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter, peut-être, aux auditeurs de Radio Nova ? Si ta femme, elle est partie, elle revient. Et si tu vas jouer au loto, peut-être qu'on peut gagner quelque chose. Voilà, tenez-vous la main chez vous.
Nous le faisons dans ce studio, en tout cas, nous.
Il faut faire une incantation.
Oui, tout à fait.
Vous avez une incantation
spéciale ? Bien tellement. Il y en a beaucoup.
Il en faut une maintenant.
Une maintenant, qu'est-ce que je peux conseiller déjà à la personne de se nettoyer ?
Oui.
Rituellement. Ah. Enlever tous les mauvais fluides qui l'entourent. et puis suivre des recettes que je peux conseiller.
Ah, on revient dans le monde de la consommation.
Moi, je vais mieux.
Moi, ça va déjà
mieux. Juste, oui, monsieur, oui. Il y a 88 millions d'euros à l'euro million ce soir. Pouvez-vous me donner les numéros, s'il vous plaît ?
Mais non, non, mais je ne suis pas voyant.
Vous simplifiez.
Non, mais oui.
Moi, je voulais revenir dans une expression qui est bien connue en créole, mais qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est tiens, bien, pas molli.
Tiens, bien, pas molli. Oui, il faut tenir dur. Il ne faut pas baisser les bois.
C'est ce que disait Francky Vincent dans une chanson. Il disait Nuka ba moins, si t'as papa, il.
Nuka ba moins, non, c'est
Nuka ba moins, donnez tout l'amour avec la. Si la banane est en forme, les mangues et les noix de coco.
Je ne suis pas sûr de cette imitation.
Cher me bien ménage, on est fatigué, il est tard cette nuit. On devrait tous être couchés. On vous souhaite le meilleur.
Oui, je vous remercie.
Merci, Jacques. Merci à tous. Merci. Vous voyez.
Oui.
Vous ne m'avez pas soutenu dans cette imitation de Francky Vincent, vous en veux un tout petit peu.
Oui, mais il y avait des accents un peu approximatifs et des mots.
Non.
C'est-à-dire que nous, on a déjà reçu, un ou deux blâmes pour racisme. Ouais,
pour racisme, pour des accents même méridionaux, c'est
fait engueuler. Francky Vincent, qu'est-ce que c'est que cette société ? Merde, je ne peux imiter personne, il est blond, il est roux, il est noir.
Vous avez dit Mika Buendé,
banane. J'avais reçu à des années Francky Vincent.
Mika Buendé banane, écoutez, on ne peut pas dire.
Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser avec un personnel de merde qui m'a vraiment mis dans la merde. Ce sont les paroles de Francky Vincent.
Fruit de la passion.
Voilà. Tout de suite, parce que là, il n'y a plus de mots. Là.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h-9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
La mode et la consommation vue par Alain Souchon. Bonjour Antigone Schilling.
Bonjour.
Alors nous vous recevons parce qu'en ce moment, c'est la semaine de quoi ? De la couture, du prêt-à-porter ?
C'est la haute couture, oui. Et la haute couture, c'est la seule particularité, je dirais, parisienne, française. Toutes les villes, aujourd'hui, toutes les villes du monde, beaucoup de villes, ont des fashion week, donc des semaines de la mode. Et la haute couture, par contre, est uniquement française, même si certaines marques viennent de l'étranger pour défiler au moment de la haute couture.
Alors, vous faites autorité, Antigone Schilling. On nous a dit que pour parler de mode, il faut Antigone Schilling, parce que nous, on s'y perd un peu. Donc, il y a deux fois par an, il y a ce qu'on appelle la fashion week, son défilé de prêt-à-porter.
Oui, il y a deux fois donc prêt-à-porter féminin, deux fois prêt-à-porter masculin et deux fois haute couture.
Donc ça fait six périodes de mode par an à Paris, voilà. Où à chaque fois tout le monde dit c'est la semaine de la mode, on l'entend six fois par an en fait.
Voilà, mais la haute couture c'est assez réduit en calendrier et aussi en nombre de maisons. C'est-à-dire que la haute couture, elle a tenu le haut du pavé jusque dans les années 60. C'était la haute couture qui dictait ce que Madame Michu allait porter. Après, c'est le prêt-à-porter qui est devenu prescripteur de mode. Et aujourd'hui, la haute couture, c'est devenu... Enfin, il reste quelques maisons historiques, comme Chanel et Dior, ou Gautier, qui a maintenant à peu près une vingtaine d'années en couture. Et puis sinon, c'est devenu une espèce de territoire, un laboratoire.
C'est vraiment fait à la main, c'est tout un
artisanat. Voilà, c'est l'artisanat, c'est la main d'œuvre, c'est une haute technicité, c'est très artisanal.
Alors, qu'est-ce qui se passe de spécial pendant cette saison-ci, cette semaine ?
Alors, moi, je
trouve... On veut de la nouvelle tendance, on veut savoir ce qui se passe.
Bon, alors, tendance, il faut oublier le mot.
Ah, j'aimais bien ce mot-là, moi.
Non,
ça n'existe plus.
C'est un peu ridicule. Il n'y a plus vraiment de tendance. Pardon. Il faut bien du travail pour les bureaux de tendance, mais globalement, les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent. Donc, il n'y a plus de dictat de mode, de longueur de robe, de couleur à porter. Enfin, je pense que vraiment, ça part dans tous les sens. Même si on va retrouver des familles, une saison, ça va être les carreaux, etc. Mais enfin, je veux dire...
Ça n'existe plus le côté cette année. Cette année, c'est le mauve. Hein. Cette année, on a envie de mauve.
Voilà,
on a envie
c'est ça.
Cette année, on a envie de choses
courtes
et longues.
Surtout que c'était préprogrammé par des bureaux de tendance deux ans avant, qui décident que vous allez porter du mauve, du vert. Alors, il y a quand même Pantone qui donne chaque année la couleur. Et donc, la couleur de 2017, c'est le vert. Voilà.
Ah bah
donc,
quand même, voyez, ouais. La tendance, c'est le vert. Oui, vous saviez, Thomas Baumgartner ?
Bah, manifestement pas, non.
Alors, qu'est-ce qui vous a étonné là depuis quelques jours qu'il y a des défilés à Paris ?
Ce qui est intéressant, ce que j'aime, moi, personnellement, dans la mode, c'est quand ça fait bouger un petit peu les lignes. C'est-à-dire que si c'est pour se retrouver avec des vêtements qu'on a déjà vus, que tout le monde peut porter, pour moi, c'est pas suffisant en termes de mode. Donc, j'aime bien qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait de la création pure. Et certains jeunes aujourd'hui peuvent choisir le calendrier de la haute couture et s'exprimer davantage. Je pense que le prêt-à-porter est plus parfois dans une logique un peu de produit. Et donc
C'est plus marketé.
Tandis que la haute couture, là, il y a, par exemple, hier a été une journée vraiment fabuleuse pour deux défilés. C'était Iris Van Herpen qui vraiment travaille aussi la technologie, qui fait presque tout, enfin qui fait beaucoup de choses sur ordinateur, qui travaille avec des matières contemporaines, avec du plastique, avec du métal, qui imprime en 3D. Et puis un autre aussi, un petit jeune japonais, Yuima Nagasato. C'est la deuxième fois qu'il est invité dans le calendrier et qui lui aussi pousse les limites un peu de la création. Ce sont deux créateurs aussi qui sont visionnaires, qui voient le futur, parce que la mode, je dirais, jusque dans les années 60, sont l'exemple typique d'une période où on voyait le futur, c'est-à-dire on imaginait 2001 Odyssée de l'espace.
Comment on va s'habiller, nous, en vrai, dans la rue, dans l'avenir ?
Ben ça, je pense que c'est difficile, parce que si vous vous remettez dans les années 60, tout le monde pensait qu'on allait manger des pastilles bleues, flotter dans l'espace, porter des combinaisons
c'est
en
métal,
etc.
C'est le cas de Thomas Baumgartner.
Voilà, tout à fait.
J'y ai cru, moi, j'y ai cru à fond.
Avec les moon boots, enfin tout. Oui. Et donc, finalement, l'an 2000 n'est jamais arrivé. Et on s'est retrouvés avec les femmes qui portaient des jupes longues et qui se promenaient en trottinette. Donc la vision 2001 n'a jamais été là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Je pense qu'il faut que les vêtements soient quand même pratiques. Mais j'aime bien l'idée d'un futur. Et justement, les deux créateurs dont je vous ai donné les noms imaginent ce futur. Et le petit japonais Nagasato, notamment dans le défilé d'hier, il est parti aussi de façon un petit peu thématique. Donc il a choisi quatre mots, terre... il n'a pas choisi air, il a choisi vent, feu et eau.
On dirait un restaurant branché, slash terre, slash eau, slash fer.
Et avec des symboles. Et après, les symboles, il les a imprimés, puis il fait des mélanges. Donc vous avez une robe qui peut être vent et feu, etc. Et comme tout est imprimé et sort en 3D, le vêtement n'est pas cousu. Donc chaque vêtement peut être différent, chaque vêtement peut être un modèle pour une seule personne.
Mais est-ce que ça veut dire que dans ces moments-là, dans ce type de présentation, on peut voir, pas forcément en termes de couleur ou de forme, mais en termes de technique, ce que le vêtement va devenir dans quelques années ?
Ah ben ça pourrait justement, c'est une espèce de PVC, de plastique. Je pense que par contre, la durée de vie ne doit pas être très importante. Ça m'avait l'air assez léger, on a pu quand même s'approcher à la fin du défilé de très près.
Et c'est ça qui est imprimé par une imprimante 3D ?
Oui. Oui, oui.
Mais les nouveautés technologiques sur les nouvelles matières, c'est là que ça a lieu ou c'est plus dans des gens qui cherchent contre le chaud, contre le froid ?
Alors il y a aussi quand même des personnes, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Elisabeth de Senneville, qui a été très connue dans les années 80 et qui continue, elle a inventé des choses, notamment elle travaille sur des vêtements qui seraient anti-communication, c'est-à-dire qui vous mettraient à l'abri, justement pour vous déconnecter. Elle fait des vêtements anti-pollution et les Chinois s'intéressent beaucoup à son travail aujourd'hui. Elle continue de façon, j'allais dire, un peu plus modeste dans son atelier. Et elle essaie d'imaginer un vêtement pratique pour le futur et cohérent avec les problèmes de l'existence aujourd'hui.
Vous parliez d'un vêtement qui ne laisse pas passer des ondes, par exemple, qui soit isolant. Donc c'est des choses qui peuvent servir à l'armée aussi ?
Pourquoi pas à l'armée, mais enfin pour nous protéger aussi. Je veux dire, on est envahis partout.
Les ondes électromagnétiques.
Voilà, donc je veux dire, autant peut-être protéger le corps au maximum. Je pense que c'est une bonne idée. Et la pollution, vous avez vu le ciel hier matin, enfin, c'était affligeant. Aujourd'hui, je ne le vois pas encore, mais...
Il faut que je réponde au téléphone parce que j'ai quelqu'un qui est coincé dans mon immeuble.
Bon, merci Antigone Schilling. Alors, on rappelle quand même votre blog, l'anti-blog sur Slate.fr, et puis la revue que vous avez fondée, dont vous êtes rédactrice en chef, qui s'appelle Faux Q, avec la lettre Q.
Oui, le grand Q de la culture.
Eh bien, non, c'est celui-là, Faux Q, que vous avez fondé, dont vous êtes rédactrice en chef, et un grand, grand format pour de belles
et
photos.
Bon, voilà. Moi, je reste fidèle au papier, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on fasse encore des choses. Pas uniquement d'images et aussi d'écrits. Je pense que c'est important. Et puis avec une touche de fantaisie. Donc je dis toujours que c'est une revue qui a un poil dadaïste.
Antigone Schilling, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai dû aller téléphoner.
Ça va bien ?
Oui, c'est arrangé. Merci Antigone Schilling.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Bonjour, sœur Marie-Jo. Sœur Marie-Jo, de l'association Notre-Dame de Tanger, rue de Tanger, vous vous occupez d'accueil de réfugiés à Paris et vous avez besoin de beaucoup de choses là aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, la situation est un peu plus dramatique par le fait que à cause du grand froid qu'il y a là. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dehors, beaucoup de réfugiés qui vivent dehors. Hier soir, j'en trouvais sur les porches des portes, partout ils peuvent trouver un petit coin, ils s'y mettent.
Et ma sœur, vous vous occupez de combien de personnes chaque jour à peu près ?
Ch- chaque jour, nous accueillons au moins... Hier, on a accueilli une cinquantaine.
Cinquantaine dans le quartier, là, dans le 19e de la rue de Tanger. Oui, donc, vous nourrissez des familles, vous leur donnez des vêtements. Qu'est-ce que vous faites exactement?
On les aide au niveau de l'alimentation. Oui, chaque jour, on a un repas. Après l'accueil, nous avons un repas en soirée. Vers 17h, 18h, on fait un repas. Et ensuite, nous leur donnons, nous les habillons. Parce que quand ils arrivent, des fois, ils ne savent même pas comment on s'habille pour le foie. Ils sont là, et bon, on essaie de les aider.
Et vous les conseillez, je sais aussi, vous les conseillez dans les démarches.
Oui, nous les conseillons dans les démarches. Et bon, moi, c'est un suivi même, parce que quand ils arrivent, on leur dit, bon, tu vas à tel endroit, c'est là que tu vas commencer ta démarche d'asile. Et quand il a été, il revient en nous disant, oui, j'ai été, mais je n'ai pas compris, par exemple, telle chose, comment il faut faire. Bon, c'est comme cela, c'est notre travail au quotidien. Et puis, on les écoute aussi beaucoup. Il y en a qui vivent des situations, qui essaient de raconter, d'autres... ont un peu de pudeur pour en parler, ou bien ils se disent « je vais oublier ». Mais beaucoup arrivent à se confier, on essaie de les aider à remonter la pente, à retrouver... Surtout, notre travail consiste à aider, les aider à retrouver cette dignité qui a été atteinte. La dignité, c'est quelque chose de fondamental à un homme. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas, comme que certains te disent, je vivais chez moi, j'étais bien, voilà l'événement. Certains disent, c'est souvent qu'on accueille les larmes. C'est souvent qu'on accueille des personnes aussi qui, on les voit abîmées, mais on ne sait pas ce qu'il a intérieurement. Mais le fait de les approcher les aide à revivre le contact avec une autre personne humaine.
Et vous arrivez à remettre de la gaieté même, à les faire sourire, voire les faire rire parfois?
On les fait rire, pas faire sourire forcément, mais on essaie de mettre la gaieté. On a fêté Noël, par exemple, ensemble, un repas. Nous, je ne suis pas seule, nous sommes l'association, comme vous l'entendez, et avec une vingtaine de bénévoles, et même plus, parce que si je compte ceux qui viennent aussi pour les cours d'alphabétisation, nous avons les cours de langue aussi, de langue française.
Bon, mais écoute,
pour aider à leur intégration.
Si vous avez besoin d'un peu de gaieté, on vous enverra Tito et sa guitare flamenco, qui est très bon là-dedans.
D'accord.
Sœur Marie-Jo, qu'est-ce qu'on peut faire là? Vous avez besoin là de vêtements chauds, donc on les apporte au 18 rue de Tanger?
Au 18 rue de Tanger. Nous avons besoin des tickets de métro, nous avons besoin de tickets de restaurant, nous avons besoin même d'argent pour les mettre, parce que les femmes, enfants et malades, on les met à l'hôtel avec des aides. Voilà.
Merci, Sœur Marie-Jo.
Nous n'avons pas autre chose que ces aides-là.
Eh ben, alors s'il y a des gens qui peuvent aller 18 rue de Tanger, l'association Notre-Dame de Tanger. Merci beaucoup, ma sœur.
Merci à vous. Au revoir.
Bonne journée, au revoir. Tito, la guitare de Tito. Est-ce qu'on a le temps pour le jeu de François Rollin? Moi, j'aimerais qu'on fasse le jeu de François Rollin.
Ben oui.
Yacine et Thomas, venez m'engueuler, venez en studio.
Ils sont d'accord.
Alors, est-ce qu'il faut terminer sur le jeu de François Rollin?
Bon, alors, un peu de gaieté. Oui. Hein,
je vais vous proposer ce matin.
Sœur Marie-Jo aurait demandé le jeu de François Rollin. C'est une femme.
Voilà. Alors, je vous propose de jouer ce matin.
Elle veut son Rollin.
Au jeu Bonjour Grand-mère, vous connaissez ce jeu?
Non. Qui ne connaît
alors,
pas.
Je vous raconte une petite histoire. Et chaque fois que vous entendrez le mot ou le son mamie, d'accord, le mot mamie ou le son mamie, vous devrez être le premier à crier bonjour grand-mère.
D'accord, attention, donc il va jouer Charlotte, voilà. Vous êtes là aussi, Charlotte.
Venez là, Charlotte, venez là.
Là, attention. Eugénie, Tito, Thierry Paret, Armel, tout le monde est là. Marie Misset, bien
allez,
joué.
Allez, c'est parti.
Dès qu'on entend le son mamie, on dit bonjour grand-mère.
Le son mamie,
attention.
Ou le mot mamie, voilà.
D'accord.
L'été dernier, je suis allé faire du tourisme en Floride avec une copine. Nous avions au départ l'intention de visiter tous les monuments qui pourraient valoir la peine et de contempler tous les paysages qui pourraient par la suite peupler nos souvenirs. Mais notre chambre d'hôtel, qui donnait sur la mer par une immense baie vitrée majestueuse, soyez bien attentif, Edouard, était si accueillante et si joliment décorée que nous avons passé le plus clair du séjour à faire l'amour dans ce nid douillet providentiel.
François, il n'y a pas.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé?
Personne n'a gagné.
J'étais pas très bon.
C'est un foutage de gueule. J'étais là, j'étais sur le buzzer.
Faut apprendre à jouer au jour
ta gueule. Les 30 glorieuses, maintenant, on va régler ses comptes à Roland. Demain, dis donc. Il n'y avait pas le sang, mamie.
Salut, grand-père, oui.
À demain, merci.
À demain.
Tu rentres l'antenne, Tito.
À demain.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.